Bonsoir à tous et bienvenue pour cette rencontre organisée conjointement par la revue Études, revue animée par les Jésuites, la revue de culture contemporaine qu'on ne présente plus et dont le rédacteur en chef est le père Pierre de Charentenay, et le département d'éthique publique du Centre Sèvres que j'ai la chance d'animer et qui organise depuis 3 ans, habituellement le premier mardi de chaque mois, une soirée de réflexion et d'échange autour d'une question qui, comme ce soir, de près ou de loin, concerne notre rapport à la vie publique, sociale, politique, professionnelle et internationale. Bienvenue donc à chacun, à chacune, les lecteurs de la revue Études, les familiers de ce lieu, tous ceux qui viennent pour la première fois et qui découvrent cet espace de rencontre et d'échange. J'en profite pour vous signaler qu'il vous sera possible d'écouter, de réécouter cette soirée sur le site du Centre Sèvres, www.centresèvres.com, et sûrement sur celui aussi de la revue Études. Alors comment allons-nous procéder ce soir? Eh bien, le point de départ sera la parole de nos deux invités, Gaël Giraud, Jean-Louis Bourlange, que nous avons déjà eu l'occasion d'accueillir ici dans le cadre de ces soirées d'éthique, mais jamais ensemble, je crois, et qui vont partager simplement, en confiance, comment ils perçoivent les enjeux du sujet qui nous rassemble ce soir. Leur parole ouvrira à d'autres paroles, à d'autres réflexions, et nous pourrons prendre le temps du débat ensemble. Alors, nous sommes particulièrement nombreux ce soir. Je ne sais pas si c'est l'Europe qui fait recette, ou plutôt la crise qui fait recette. Beaucoup vont d'ailleurs suivre par vidéo interposée notre soirée dans 2 autres salles. Cela dit en tout cas l'intérêt pour le sujet. Pour le présenter, ce sujet, et ainsi passer la parole à Pierre, je dirais que lorsque, Pierre, tu ne me contrediras pas, au cœur de l'été, nous avons ensemble réfléchi et mis en place cette soirée, eh bien, nous ne pensions pas qu'elle s'inscrirait dans une actualité aussi brûlante.
Voilà, donc actualité brûlante, crise sur crise. Gaël Giraud était ici l'année dernière, en février 2010, avec Nicolas Bavrez, sur le thème « Un an après la crise ». C'était il y a 1 an et demi. Donc là, on est un petit peu avant la crise. Enfin, on ne sait plus très bien, en tout cas à cheval sur la crise. La crise grecque, la crise de toute l'Europe, la crise grecque, vous savez, depuis 2009, une série de plans qui se sont tous, l'un après l'autre, révélés insuffisants pour résoudre le problème grec et le problème de la zone euro. Jusqu'au 27 octobre, il y a quelques jours, avec un accord de sauvetage de la Grèce, avec un certain nombre de conditions à la Grèce, et de conditions pour l'ensemble de l'Europe. Certainement, on en parlera tout à l'heure. Ça, c'est le premier élément de la crise. Le deuxième élément de la crise, c'est l'ensemble de l'Europe qui a un problème économique, notamment les dettes souveraines, un risque de récession dans plusieurs États, des difficultés en Espagne, en Italie, ailleurs, mais aussi un problème politique, la question d'une avancée, refusée ou pas, dans un peu plus de fédéralisation sur les questions fiscales, les questions budgétaires, une sorte d'hésitation à faire le pas, puis finalement un petit pas avec la question, ce petit pas est-il suffisant? Ce petit pas sera-t-il suffisant? Donc je propose quelques questions pour un peu cadrer ce débat. D'abord, il faudra que nos intervenants discutent de la solidité de la zone euro, de la solidarité existant sur le point économique, mais aussi sur le point politique. Jusqu'où sera-t-il possible ou jusqu'où est-il nécessaire de fédéraliser certains éléments, notamment monétaires, budgétaires, voire fiscaux? Autre question, quel leadership pour l'Europe? Est-ce que c'est Bruxelles, la Commission, qui doit prendre ses responsabilités, ou est-ce que c'est le tandem Sarkozy-Merkel, comme on l'a vu fonctionner? Lequel est souhaitable? Lequel peut poser problème? Une autre question supplémentaire, parce qu'il faut leur donner du grain à moudre, si jamais ils n'en avaient pas. Des questions entre l'économique et le politique. Bon, qu'est-ce qui commande dans cette affaire? Est-ce que ce sont les impératifs économiques auxquels les politiques ne savent pas répondre, et est-ce qu'ils ont vraiment pris leur place dans toute cette question? Et puis la question générale de l'Europe, c'est-à-dire le fonctionnement de l'Europe, elle semble avancer que lorsqu'elle est au bord du précipice. Alors c'est pas très bon pour ceux qui sont cardiaques, parce qu'à chaque fois on se demande si on va y arriver ou non. Les titres des journaux, il y a encore 10 jours, c'était « Le destin de l'Europe se joue dans les 10 jours ». Bon, il semble avancer que au bord du précipice et de la catastrophe. Donc pour cela, Gaël Giraud et M. Bourlange vont venir nous aider à réfléchir. Je présente d'abord Gaël Giraud, parce que c'est lui qui va parler en premier, et Jean-Louis Bourlange sera présenté par François. Donc Gaël, jésuite, normalien, docteur en mathématiques appliquées avec une thèse sur les jeux stratégiques des marchés, chercheur au CNRS, membre du CERAS, membre de l'équipe de projet, auteur de nombreux articles dans projet, dans études, vous avez lu son article du mois dernier, dans des revues spécialisées également, et il a sorti un livre en 2009 avec Cécile Renoir, 20 propositions pour réformer le capitalisme. Ce travail a demandé déjà plusieurs rééditions. Allez voir d'ailleurs son CV sur Google, c'est intéressant. À part ça, il écrit du théâtre. Il a écrit une pièce que plusieurs ont certainement vue, puisqu'il a été joué à Saint-Ignace, Chemin vers la soif. Et il joue également au piano. Donc, voilà. Donc, je lui laisse la parole pour 20 minutes. Et puis, ensuite, ce sera Jean-Louis Bourlange. Gaël, à toi.
Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci pour cette introduction. Je vais essayer d'aborder 3 points. Le premier, c'est à vue humaine, telle qu'en tout cas depuis mon petit poste d'observation, je peux le percevoir, ce qui nous attend pour les mois et l'année qui vient. Deuxième point, me semble-t-il, les grandes alternatives politiques auxquelles nous sommes confrontés et les raisons pour lesquelles, disons, les négociations entre la France et l'Allemagne me paraissent difficiles, sinon bloquées. Et puis troisième point, une lecture possible des origines les plus profondes de la crise qui, à mon sens, remonte aux années 70. Alors, premier point, ce qui nous attend dans les mois à venir, sinon l'année qui vient. Un premier constat que je souhaiterais faire, c'est qu'à mon sens, les pays fragiles de la zone euro, c'est-à-dire la Grèce, l'Irlande, le Portugal, l'Espagne et maintenant l'Italie, peut-être un jour la France, mais pas encore, ces pays-là sont en réalité, à mon sens, incapables de rembourser leur dette publique. Ils n'y arriveront pas, quelle que soit la dureté des plans d'austérité qu'ils vont s'infliger à eux-mêmes. La raison de ceci, c'est que vous avez un effet mécanique d'augmentation de la dette publique qui est lié au taux d'intérêt qui joue sur la dette publique. Dès lors que les taux d'intérêt qui sont servis, disons, sur la dette publique et auxquels les pays doivent rembourser leur propre dette sont supérieurs au taux de croissance du PIB du pays, vous avez ce qu'on appelle un effet boule de neige en économie, c'est-à-dire que la dette augmente mécaniquement. Si vous voulez, la richesse du pays n'augmente pas assez vite pour compenser l'augmentation mécanique de la dette liée au taux d'intérêt. Ce qui veut dire que, par exemple, pour la Grèce, s'il fallait que la Grèce réussisse à stabiliser sa dette publique, pour y parvenir, il faudrait qu'elle réussisse à passer, en gros, de moins 8, moins 9% de son PIB de déficit public actuellement, à plus 10 l'année prochaine. Donc faire un saut de 18 points de PIB en matière budgétaire, c'est absolument impossible. Même si, comme je l'ai entendu dire une fois, vous euthanasiez tous les fonctionnaires grecs, on n'y arrivera pas. Ce qui veut dire que la dette publique grecque va continuer mécaniquement d'augmenter. Alors, ceci, un certain nombre d'économistes l'ont observé déjà depuis longtemps, le disent déjà depuis plus d'un an. Ça veut dire que l'imposition des plans d'austérité, même si, dans une certaine logique, ils sont nécessaires, et c'est clair que, disons, l'impéritie du gouvernement grec est insupportable, que la fraude fiscale nuit à la Grèce et à l'ensemble de l'euro, de la zone euro, il n'empêche que ces plans d'austérité terribles que nous infligeons aujourd'hui à la Grèce ne permettront pas à la Grèce de régler son problème de dette publique. Mutatis mutandis, il en va à peu près de même des autres pays fragiles que j'ai nommés, l'Irlande, le Portugal, l'Espagne et probablement maintenant l'Italie. Avec évidemment des distinguos, je ne dis pas du tout que tous ces pays sont dans la même situation que la Grèce. Il est clair que la Grèce a très mal démarré puisque, comme vous le savez, on a découvert assez tardivement qu'elle avait truqué ses comptes publics au moment où elle est entrée dans la zone euro en 2001. À ce sujet, il me semble quand même que l'on doit à l'honnêteté de rappeler qu'en réalité, probablement les hauts fonctionnaires européens savaient très bien que la Grèce ne remplissait pas les critères de Maastricht. Il suffisait par exemple pour cela d'aller regarder le montant des adjudications du trésor grec qui ont lieu deux fois par semaine en 2001-2002 pour constater que la Grèce empruntait beaucoup plus sur les marchés qu'elle n'aurait dû si le déficit public qu'elle avait annoncé était exact. Il n'empêche que l'ensemble de l'Europe a fermé les yeux en 2001. Pourquoi ? Certainement parce qu'on s'est dit que la Grèce allait rentrer dans un cercle vertueux et qu'on oublierait son péché originel, qu'on a fait mine de redécouvrir en 2010 au moment où les marchés financiers ont commencé à paniquer. La situation n'est évidemment pas du tout la même pour les autres pays, l'Irlande, l'Espagne, le Portugal, l'Italie. Très brièvement, l'Irlande est un paradis fiscal qui aujourd'hui ne doit son peu de croissance, me semble-t-il, qu'à des astuces comptables qui permettent aux multinationales qui ont installé leur siège social en Irlande d'y faire transiter la plus grande partie de leurs profits. C'est ce qu'on appelle les prix de transfert. De sorte que, sur le papier, comptablement, aujourd'hui, l'Irlande est le premier pays exportateur de la zone euro, loin devant l'Allemagne et les Pays-Bas, ce qui est évidemment un non-sens économique. L'Irlande n'a pas du tout la force de frappe industrielle de l'Allemagne ou des Pays-Bas. En revanche, elle a plein de multinationales qui vont s'installer en Irlande parce que l'impôt sur les sociétés y est très favorable. C'est ce qui permet aujourd'hui à l'Irlande, artificiellement, d'avoir un taux de croissance qui ne soit pas complètement dérisoire. Il n'empêche que la dette publique irlandaise est passée de 25% du PIB il y a deux ans à 100% aujourd'hui, essentiellement parce que le secteur bancaire irlandais s'est trouvé complètement en faillite. L'État irlandais a décidé de nationaliser toutes les banques et d'essayer de payer les dettes des banques irlandaises. Et du coup, l'État irlandais a repris à son compte les dettes privées bancaires irlandaises. Du coup, sa dette est passée de 25% du PIB à 100% en un an. Elle a été multipliée par 4 en un an. Et aujourd'hui, on ne voit pas du tout comment l'Irlande pourrait rembourser cette dette. Pour l'Espagne, c'est un petit peu différent. L'Espagne, comme vous le savez, le problème de l'Espagne est essentiellement dû également à une crise du secteur bancaire espagnol qui a énormément joué avec le crédit à la consommation, qui a entretenu une bulle immobilière extraordinaire, en particulier dans le sud de l'Espagne. Une fois que la bulle a éclaté, les fameuses cajas espagnoles, les caisses espagnoles, se sont retrouvées toutes quasiment en faillite. L'État a été obligé de leur venir en aide et il continue d'être obligé de le faire aujourd'hui. De sorte que la dette publique espagnole, qui n'était que de 40% en 2007, est aujourd'hui également proche de 100% du PIB. Et on ne voit pas non plus, à vue humaine, comment l'Espagne pourrait réussir à stabiliser sa dette publique. Le Portugal, malheureusement, il en va à peu près de même, bien que le Portugal n'ait souffert d'aucune des tares que je viens de décrire. Le Portugal n'a pas truqué ses comptes publics et n'a pas de secteur bancaire fou qui ait accumulé des dettes extraordinaires sur la tête de ses ménages pauvres. Ce qui se passe tout simplement, c'est que le Portugal est un pays, disons, émergent, en réalité, qui n'a pas réellement bénéficié de son entrée dans la zone euro. Pourquoi ? Peut-être parce que, au moment même où nous faisions rentrer le Portugal, nous avons également fait rentrer en Europe les pays de l'Est, et nos industriels ont trouvé beaucoup plus intéressant de se délocaliser dans les pays de l'Est qu'au Portugal. De sorte que le Portugal n'a pas bénéficié des implantations industrielles qui lui auraient permis de décoller. Quant à l'Italie, l'Italie également est un pays qui nous ressemble beaucoup, nous la France. Elle a une véritable force de frappe industrielle, ce qui n'est pas du tout le cas de la Grèce, par exemple. Mais aujourd'hui, elle est victime essentiellement, disons, de la panique financière, de la panique des marchés boursiers, du coup de la spéculation sur la dette italienne, qui fait que, comme vous le savez sans doute, il suffit que les marchés financiers se convainquent, à tort ou à raison, peu importe, qu'un pays n'est pas capable de rembourser sa dette, pour que, de fait, il ne devienne plus capable de rembourser sa dette. Pourquoi ? Parce que, du coup, les marchés financiers exige des taux d'intérêt exorbitants pour prêter au pays en question, lequel voit le poids de sa dette augmenter très rapidement, beaucoup plus qu'il ne peut lui-même y faire face, simplement parce que les marchés financiers paniquent. Alors, à partir du moment où on accepte le constat que ces pays-là ne vont pas pouvoir rembourser, ça jette, disons, une lumière complètement différente sur les négociations qu'on a aujourd'hui. Je ne crois pas du tout, pour ma part, que le niveau réel des négociations qui ont lieu aujourd'hui soit est-ce qu'on va réussir à permettre à la Grèce de ne pas faire défaut. C'est inévitable, tôt ou tard, la Grèce fera défaut. Alors, ça a été enregistré très tardivement. Comme vous le savez, le 21 juillet dernier, on a commencé à parler d'un défaut possible de la Grèce. On essaye, d'après le dernier accord du 27 octobre, d'entériner, disons, une décote de 100 milliards sur la dette grecque, qui est de 350, en gros. Donc, ce n'est pas une décote de 50%. C'est simplement une décote de 50% de la part de la dette grecque qui est détenue par les banques. En réalité, nous allons tôt ou tard être contraints d'avoir les mêmes affres avec les autres pays que j'ai nommés, l'Irlande, le Portugal, l'Espagne et très probablement l'Italie. Qu'en est-il de la France ? La France, pour l'instant, n'est évidemment pas dans la même position, mais la dette publique française est proche des 90% du PIB. L'année prochaine, nous avons nous-mêmes des échéances de dette publique assez importantes. Et je ne crois pas du tout que le plan d'austérité qui a été annoncé il y a quelques jours par M. Fillon permettra de stabiliser la dette publique française. En tout cas, je suis assez sceptique sur la réussite de cet objectif. Que ça permette de diminuer le déficit public français, oui, heureusement, et c'est nécessaire, mais que ça permette de stabiliser la dette publique comme telle, je ne crois pas. Nous allons nous-mêmes souffrir des mêmes problèmes que les autres pays dès lors que nous clignoterons sur les radars des marchés financiers, ce qui ne saurait plus tarder beaucoup à mon sens. Nous allons très certainement perdre le triple A auquel nous sommes accrochés actuellement, quand, j'en sais rien du tout, peut-être d'ici la fin de l'année 2011, peut-être en 2012. Et à ce moment-là, nous clignoterons sur les marchés financiers qui se mettront à exiger, eux aussi, des taux d'intérêt exorbitants pour nous prêter. De sorte que, très probablement, à mon sens, nous allons à notre tour entrer dans la danse des pays fragiles, fragilisés en tout cas par les marchés financiers. Le point suivant du constat, c'est que l'Allemagne ne peut pas payer les dettes des autres. Un certain nombre d'observateurs, de fonctionnaires, de politiques ont cru à un moment qu'on pourrait contraindre d'une certaine manière l'Allemagne à payer pour les autres. Et en réalité, à mon sens, le coût de la facture est tellement exorbitant que, en réalité, l'Allemagne ne le peut pas. Bon, il y a un petit calcul très simple qui permet de voir que si on voulait simplement ramener les dettes publiques des pays fragiles à 75% de leur PIB et que l'on demandait à l'Allemagne de payer la différence, ça coûterait à l'Allemagne entre 3 et 4 points de PIB tous les ans pendant 10 ans. Et ça, en gros, c'est le coût qu'a représenté pour l'Allemagne la réunification. Et c'était le coût qu'on a voulu faire payer à l'Allemagne au traité de Versailles. Et on sait comment ça a terminé. Donc je ne crois pas du tout qu'on puisse aujourd'hui demander aux classes moyennes allemandes de payer pour les autres, d'autant que ça fait au moins 15 ans que les classes moyennes allemandes se serrent la ceinture, premièrement pour cause de réunification, deuxièmement pour cause de rattrapage compétitif. Ils y sont arrivés, ils ont des exportations magnifiques, mais aujourd'hui la classe moyenne allemande a vu son pouvoir d'achat diminuer depuis 10 ans, ce qui n'est pas le cas en France. Donc je ne vois pas du tout politiquement comment quelque gouvernement allemand que ce soit pourrait convaincre ces classes moyennes de payer maintenant pour les Grecs, les Espagnols, les Portugais, les Irlandais, les Italiens, voire un jour les Français. Alors, j'arrive au deuxième point, et je vais essayer d'aller plus vite, les grandes alternatives politiques auxquelles nous sommes confrontés. Une fois qu'on a admis, qu'on a consenti, ce qui est pour l'instant très difficile à admettre, à savoir que les pays fragiles de la zone euro ne pourront pas rembourser, il me semble qu'il ne nous reste que deux grandes options, qui sont celles, en gros, entre lesquelles hésitent l'Allemagne et la France. La première grande option, c'est de réviser les traités européens et d'autoriser la Banque Centrale Européenne à ce qu'on appelle monétiser les dettes publiques, c'est-à-dire à créer de la monnaie en rachetant la dette publique des États. Aujourd'hui, les traités européens l'interdisent à la BCE. Et nous sommes la seule région du monde à avoir fixé cette règle dans, disons, les règles qui nous régissent tous. La Fed, depuis plusieurs mois, voire des années, rachète la dette publique américaine, donc crée elle-même des dollars pour permettre aux États-Unis de continuer à s'endetter. Le Japon le fait également. Nous sommes les seuls à ne pas vouloir le faire, et c'est essentiellement l'Allemagne qui s'y oppose. La France essaye depuis plusieurs mois de trouver tous les expédients possibles et imaginables, avec les astuces les plus sophistiquées possibles, pour réussir à faire monétiser la BCE. Alors la dernière idée, c'était de passer par le FMI, en autorisant le FMI à émettre des droits de tirage spéciaux que le FMI aurait accordés au Fonds européen de stabilité financière, de manière que celui-ci puisse prêter davantage aux États européens. Mais les Allemands ne sont pas dupes, ils réfléchissent un petit peu aux propositions que nous leur faisons, et dès qu'ils sentent que ça revient en gros à créer de la monnaie pour financer les États surendettés, ils s'y opposent. Pourquoi ? Essentiellement, comme vous le savez sans doute, parce qu'une partie de la classe politique allemande est effrayée à l'idée qu'on puisse créer de la monnaie aujourd'hui pour solder les dettes des pays surendettés, puisque, pense-t-ils, cela nous ramènerait au spectre des années 30, enfin de l'hyperinflation des années 20 et ensuite donc du national-socialisme. Moi, je suis très sceptique sur cette relecture de l'histoire allemande. Je préciserai simplement que Hitler est arrivé au pouvoir au moment où l'Allemagne pratiquait une politique de déflation. C'était le chancelier Brüning qui, de 31 à 33, a pratiqué une politique de déflation. Et donc, au moment où Hitler arrive au pouvoir, l'Allemagne est en période déflationniste, pas du tout en période inflationniste. Donc, je pense qu'il y a une relecture complètement tronquée de la part de nos amis allemands et d'un certain nombre de Français qui se cachent derrière le refus allemand pour ne pas défendre avec beaucoup de conviction, me semble-t-il, la possibilité de la création monétaire. Il est vrai que si la BCE commençait à racheter massivement, directement des dettes publiques aux États, ça l'obligerait à injecter beaucoup d'argent dans l'économie. Je ferai simplement remarquer qu'elle le fait déjà. La BCE fait augmenter sa base monétaire chaque année de 15% depuis l'an 2000 et de 30% depuis 2008. Donc, des injections massives de liquidités, nous le pratiquons déjà. et ça ne provoque pas l'inflation à laquelle on devrait s'attendre si on croyait naïvement que le fait d'augmenter simplement la quantité de monnaie en circulation fait augmenter les prix de manière proportionnelle. La raison de ce paradoxe, c'est qu'une grande partie de cette énorme quantité de liquidités injectées dans l'économie migre sur les marchés financiers depuis longtemps, depuis au moins 10 ans, et vient alimenter les bulles à répétition que nous connaissons sur les marchés financiers. C'est ce qui permet à la BCE, mais aussi à la Fed, puis à la Banque centrale du Japon, la Banque centrale de Suisse, etc., d'injecter beaucoup d'argent dans l'économie sans voir d'inflation, puisqu'en réalité, il n'y a pas d'inflation domestique, ou pas beaucoup, mais il y a une inflation énorme sur les actifs financiers qui n'appartiennent pas directement, stricto sensu, à l'objectif d'inflation des banques centrales. Par ailleurs, si la BCE acceptait de monétiser les dettes publiques des pays surendettés en Europe, peut-être que ça créerait de l'inflation, c'est possible, mais ça n'est pas du tout certain. Et j'aurais envie de dire, et alors ? C'est-à-dire de l'inflation, ce serait le plus sûr moyen aujourd'hui d'alléger le fardeau des dettes, à condition évidemment que les salaires puissent suivre, ce qui est une autre affaire, et si vous voulez, on en reparlera tout à l'heure. La deuxième grande solution possible, c'est celle qui est défendue par l'Allemagne, c'est l'annulation d'une partie des dettes. En gros, c'est ce que petit à petit nous sommes en train d'imposer à la Grèce, et là, cette fois-ci, c'est la France qui résiste, me semble-t-il. Pour une raison simple, c'est que si vous annulez une partie des dettes, par exemple, de la Grèce, ça va faire très mal à qui ? Ça va faire très mal à nos banques, à nous, qui, quoi qu'elles en disent, sont quand même assez exposées au risque souverain grec et encore plus au risque souverain italien. L'idée étant que si on essaie de trouver une solution au problème grec via l'annulation partielle de sa dette, tôt ou tard, on trouvera les mêmes expédients pour les autres pays, l'Espagne, l'Italie, le Portugal et l'Irlande. Donc on comprend bien que la France s'y oppose. Elle essaye de protéger les intérêts de ses banques. Et en gros, moi, je relis les 6 derniers mois des négociations comme un bras de fer entre la solution de la monétisation proposée par les Français et la solution de l'annulation partielle de la dette proposée par les Allemands. Si nous devions nous engager davantage dans la voie de l'annulation partielle de la dette, se poserait à mon sens la question de savoir comment les banques elles-mêmes, qui vont essuyer une partie de cette dette, vont la répercuter sur leurs créanciers. Quels vont être, en gros, les payeurs en dernier ressort des pertes essuyées par les banques ? Et là, en gros, vous avez deux grandes options. Soit vous faites payer les riches créanciers des banques, à qui vous dites, ben voilà, c'est votre participation au sacrifice pour l'Europe, de manière que l'Europe puisse survivre. Soit vous faites payer le contribuable. Faire payer le contribuable, ça veut dire, par exemple, que l'État recapitalise les banques sans mettre beaucoup de conditions sur l'usage qu'elles feront de ces banques, de cet argent. Vous avez vu que le Conseil pontifical Justice et Paix s'est prononcé très récemment en faveur de la recapitalisation des banques. Évidemment, enfin, je veux dire, personne ne peut être contre. La question, c'est à quelles conditions ? Et le Conseil pontifical Justice et Paix précise bien que, à condition qu'on puisse obliger les banques à avoir un comportement vertueux avec l'argent qu'on leur prête. En 2008, on leur a prêté de l'argent. Je ne crois pas qu'elles aient beaucoup appris de la crise de 2007-2008, puisque pour la plupart d'entre elles, me semble-t-il, elles ont continué le business as usual. L'enjeu, à mon sens, si on s'engage sur la voie d'une annulation d'une partie des dettes des pays fragiles, c'est d'obliger les banques à adopter un comportement plus vertueux. Évidemment, il y a plein d'autres options qu'on pourrait imaginer. La première d'entre elles, ce serait la mise en place d'une taxe Tobin. Vous savez que son principe a été voté par le Parlement européen. Elle permettrait de rapporter plusieurs centaines de milliards chaque année à l'Europe. Et si nous l'avions fait en 2008, nous aurions déjà probablement réglé la totalité du problème des dettes publiques en Europe. De nouveau, Justice et Paix à Rome s'est prononcée en faveur d'une taxe Tobin. Cette fois-ci, vous savez, c'est l'Angleterre qui s'y oppose. Donc la question n'est pas simple, mais ce serait quand même une autre possibilité alternative pour essayer de résoudre le problème. Et évidemment, il reste la quatrième grande option qui est avancer à marche forcée vers, disons, le fédéralisme européen, c'est-à-dire l'intégration budgétaire de l'ensemble des pays avec, par exemple, l'émission d'obligations européennes, des eurobonds. Et cette fois-ci, c'est de nouveau l'Allemagne qui bloque, parce qu'elle estime que ça n'est pas compatible avec sa constitution. J'en arrive à mon troisième point, et puis je vais m'arrêter là, en quelques mots. À mon sens, l'origine la plus profonde de la crise qui nous occupe aujourd'hui n'est pas liée, par exemple, à un comportement laxiste et dépensier de nos États. En réalité, la part des dépenses publiques en France, par exemple, de l'État, a diminué dans le montant total du PIB entre, disons, le début des années 90 et aujourd'hui. En revanche, ce qui a diminué également, et cette fois-ci beaucoup trop rapidement, c'est la part des recettes. Donc je pense qu'une partie, disons, de l'accélération, l'augmentation des dettes publiques d'un certain nombre de pays, dont la France, c'est davantage l'accumulation des cadeaux fiscaux consentis depuis plusieurs années qu'un train de vie dépensier incroyable de nos États. Je ne vois pas les dizaines de milliers de fonctionnaires que nous aurions recrutés sur les 10 dernières années et qui seraient responsables de l'explosion du déficit public français. Alors, ensuite, ça c'est à mon sens la partie la plus superficielle du problème. En réalité, il faut remonter aux années 70. Pourquoi ? Parce qu'il y a une remarque très surprenante qui est qu'au cours des 30 glorieuses, quasiment aucun des pays européens n'avait de dette publique. Et tous, à partir des années 70, se sont mis à avoir des dettes, de la dette, y compris les États-Unis par exemple, qui ne cesse d'augmenter depuis 40 ans. Que s'est-il passé qui ait pu affecter tous nos pays, indépendamment des politiques menées dans chacun de ces pays ? Je ne vois que deux grands ordres d'explication. Le premier, c'est le choc pétrolier. Le deuxième, c'est le grand basculement, disons, d'un régime économique qu'on pourrait qualifier de fordiste, où l'essentiel, enfin une grande partie des profits étaient redistribués, disons, au travail, vers un régime d'économie complètement différent, où une partie croissante des profits, cette fois-ci, est redistribuée du côté des prêteurs, que ce soit les prêteurs via les banques ou les prêteurs via les marchés financiers. Alors, je crois que l'explication en termes de crise énergétique est très convaincante, même si elle n'est pas du tout mise en avant aujourd'hui dans le débat public, parce qu'elle suppose une prise de conscience beaucoup plus forte que celle qu'on voit naître aujourd'hui chez les économistes, de l'impact, disons, de la contrainte énergétique à laquelle nous faisons face depuis 40 ans. Alors, je résume simplement la thèse, et puis je vais m'arrêter là. En gros, une économie comme la nôtre, comme celle de l'Europe aujourd'hui, qui est en grande partie construite autour des marchés financiers, c'est une économie dans laquelle vous avez des détenteurs, disons, de l'épargne qui prêtent à d'autres contre un taux d'intérêt. Pour que l'emprunteur puisse rembourser sa dette, qui sera donc supérieure à ce qu'il a emprunté, puisqu'il y a un taux d'intérêt, il faut qu'entre-temps, l'emprunteur ait créé de la richesse et soit capable de rembourser le taux d'intérêt en plus du capital. Pour pouvoir créer de la richesse, en gros, il faut qu'il y ait de la croissance. Donc, si on n'a pas de croissance, c'est très très difficile d'organiser une économie autour des marchés financiers. Pourquoi n'avons-nous plus de croissance ? Ou très peu, ou pas assez en tout cas ? Une des raisons profondes, c'est que nous sommes contraints énergétiquement dans des économies où nous dépendons complètement des énergies fossiles notamment. Beaucoup plus que la plupart de mes collègues économistes, à mon sens, ne le reconnaissent, parce que les économistes regardent en gros la part du pétrole dans le budget de la France, mais en réalité, même pour acheter un ordinateur, j'ai besoin que le pétrole ne soit pas trop cher. Parce que toutes les composantes de l'ordinateur que j'ai acheté en France viennent d'autres pays que la France, ont voyagé grâce à un pétrole qui, jusqu'à une date récente, ne valait quasiment rien. De sorte que si vous tenez compte véritablement de l'impact de la crise pétrolière que nous connaissons depuis plusieurs années sur l'ensemble de l'économie, il est beaucoup plus fort. Et dans ces conditions, c'est très très difficile d'espérer pouvoir empêcher les États de s'endetter, ainsi que les ménages d'ailleurs, ça ne concerne pas seulement les États, dans la mesure où pour combler l'absence de croissance liée à la contrainte énergétique, ils n'ont pas tellement d'autres ressources que de s'endetter de manière à pouvoir payer leurs dettes précédentes. Et donc, vous voyez le mécanisme immédiat qui s'enclenche, qui est l'accumulation de dettes pour pouvoir payer les dettes antérieures que nous n'arrivons plus à payer, que ce soit les États ou les ménages ou les entreprises, parce que la croissance n'est plus au rendez-vous. Du coup, et je m'arrêterai là cette fois-ci vraiment, une des solutions possibles, une piste que je propose, hein, c'est de mettre en œuvre un grand plan de transition écologique et énergétique, au sens où il a été mis au point par un certain nombre d'ingénieurs en France, par exemple, qui soit financé par la planche à billets de la BCE, et qui permettent de créer des emplois, évidemment, sans que, probablement, ça ne provoque beaucoup d'inflation. Voilà. Ça, ce serait, me semble-t-il, une piste originale pour sortir, mais à condition de prendre conscience de la profondeur et de la gravité de la crise dans laquelle nous sommes immergés aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup.
Bien, merci Gaël pour cette présentation. Évidemment, on est obligé de faire assez vite, mais ça nous permet comme ça de voir un peu le tableau, d'abord un peu des raisons. J'ai commencé à avoir peur, hein. Vous avez eu peur au début, je crois, moi aussi, en voyant tous ces pays qui ne pourraient pas s'en sortir les uns après les autres. Mais c'est vrai qu'il y a ainsi des options qui sont proposées, et peut-être l'explication sur les origines, en même temps, on aura le temps d'y revenir, faire porter une partie des solutions sur la transition écologique, c'est probablement une nécessité et en même temps quantité de nouveaux obstacles qu'il faudra évidemment préciser. François, à toi la parole.
Merci. Merci Gaël, effectivement, de nous avoir aidé à rentrer dans la complexité du sujet avec des propositions sur lesquelles on pourra débattre tout à l'heure. Alors, on le voit bien, on le sait bien, le sujet est à la fois un sujet financier, économique, mais c'est aussi un sujet politique. Et donc, il nous apparaissait vraiment important de pouvoir aussi avoir une réflexion politique, et pour cela je suis très heureux d'accueillir Jean-Louis Bourlange, bien connu du paysage politique français et apprécié de ceux qui essayent de comprendre les enjeux du moment. Diplômé de Sciences Po, agrégé de lettres modernes, énarque, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages. Très attaché à votre Normandie, vous y avez été engagé politiquement, exerçant plusieurs mandats locaux. Mais l'Europe va occuper une place très importante dans votre vie publique. Élu, je crois, en 1989 au Parlement européen, vous y serez réélu à plusieurs reprises. En 2005, vous faites campagne pour le oui au référendum sur le traité constitutionnel. Et en décembre 2007, je crois, vous décidez de laisser votre mandat de député européen et vous revenez à Paris, à la Cour des comptes, où vous êtes actuellement conseiller maître. Votre présence ce soir nous indique que votre intérêt pour la politique, si on en doutait, pour l'Europe, pour son avenir, n'ont pas faibli malgré toutes les crises. Cette crise de l'euro est une crise de l'Europe. Vous écriviez, je crois, au milieu des années 90, un livre qui s'intitulait « Le diable est-il européen ?» On peut se demander... La réponse est non. Oui, il faut mieux préciser. Mais on peut se demander en tout cas si, en voyant la situation actuelle, le mauvais esprit n'est pas quand même en train de gagner un peu la partie du projet européen. Alors, comment en sommes-nous arrivés là? Et surtout, comment peut-on imaginer d'en sortir? Je vous laisse la parole.
Oui, alors, c'est très éprouvant, cette soirée, bien qu'elle soit évidemment très sympathique et... Je suis particulièrement heureux de parler devant vous une assemblée nombreuse, parce que j'ai toujours professé que ce qui caractérisait le militantisme européen, c'était sa capacité à prononcer des discours enflammés devant des auditoires clairsemés. Et là, je ne sais pas si le discours sera enflammé, mais je constate que l'auditoire n'est pas clairsemé. Et c'est une très bonne chose. D'autre part, j'ai quelques émotions à prendre la parole ce soir devant vous, parce que la dernière fois que je suis venu, à l'invitation du père Boydeck, c'était pour un dialogue à deux voix avec un autre invité, qui était Tommaso Padoa-Schioppa, qui était ancien ministre de l'économie italien et ancien membre du directoire de la Banque Centrale Européenne, ancien gouverneur de la Banque Centrale Italienne aussi, gouverneur adjoint, je crois, qui était président du groupement d'études Notre Europe, qui avait été fondé par Jacques Delors. Et on avait eu une soirée extrêmement sympathique et animée. Et hélas, Tommaso, qui était certainement une personnalité italienne, qui jouerait dans les moments de crise aujourd'hui un rôle tout à fait précieux et même irremplaçable, nous a quittés il y a quelques mois, et donc c'est avec émotion que je reviens dans cette salle sans lui, mais avec toujours l'idée de défendre cet idéal européen auquel il était fortement attaché. Alors, mon voisin est quelqu'un de terrible, parce que je ne sais pas si vous avez vu le plan qu'il a suivi, c'est un plan terrifiant. Généralement, on vous dit, voilà d'où on vient, première partie. Deuxième partie, voilà où on est, ça va mal. Et troisième partie, voici la solution. Eh bien, lui, il nous a dit, première partie, ça va mal. Deuxième partie, il n'y a pas de solution. Et troisième partie, je vais vous expliquer d'où nous venons. Et là, quand même, le militant européen a tendance à vaciller et donc à se dire, est-ce qu'on ne peut pas un peu inverser l'ordre des facteurs? Bon. Alors, moi, je ne sais pas, mais je vais essayer de respecter. Alors, je suis pas j'ai pas une analyse aussi noire, bien que, bon, en général, c'est très difficile de trouver plus pessimiste que moi. Donc, je suis un peu déstabilisé là par quelqu'un qui affiche des positions aussi dramatiques. Alors, moi, je disais, alors, ça va mal. Et il y a quelqu'un qui me dit à côté, non, ça va pas mal, c'est catastrophique. Ah bon? Alors, moi, mon rôle, qu'est-ce que je fais dans ce jeu de rôle? Enfin, ça va pas du tout. Bon. Mais enfin, je vais commencer, puisqu'il faut toujours suivre la compagnie, et je vais commencer dans l'ordre qui m'est prescrit, c'est-à-dire le père Boydek m'a dit qu'il fallait commencer par l'origine, et je vais essayer effectivement, en plus je ne suis pas du tout... Vous avez dit que j'étais à la Cour des comptes, alors je ne parle jamais publiquement escalité Cour des comptes. Hein, je tiens à le dire, j'applique, je suis un véritable schizophrène, je pratique la schizophrénie durkheimienne qui sépare le fonctionnaire qui obéit, Périndec cadavère, et du citoyen qui, lui, le soir, s'échappe dans des cénacles improbables et dit ce qu'il pense. Bon, donc là, c'est pas en cette qualité, mais vous avez rappelé que j'étais agrégé de lettres, ce qui est la juste mesure de ma compétence en matière économique. Et donc, je vais partir de... Je voudrais, si vous voulez, indépendamment de ce tableau économique très, très, très rigoureux qui vous a été dressé, dont j'espère quand même qu'on va essayer de trouver un vasistas pour trouver un peu d'air, mais je voudrais essayer d'analyser ce qui s'est passé sur le plan politique. Je crois qu'on doit comprendre, pour savoir où nous en sommes sur le plan européen, il faut partir, il faut analyser la dynamique des 20 dernières années que nous avons connues. Et je dirais opposer les années 90 et les années 2000. Et les années 90 et les années 2000 sont évidemment bâties, se présentent comme un contraste absolu, mais ce contraste est réel, mais il n'est pas aussi simple et univoque que ce qu'on pourrait imaginer. Les années 90 sont apparemment des années de triomphe européen, des années d'optimisme. Ce sont les années qui suivent une victoire politique par chaos contre le stalinisme, ce qui n'était quand même pas rien comme victoire, et songez qu'au début des années 80, il y avait l'invasion en Afghanistan des Russes, il y avait l'état de siège en Pologne, il y avait les politiques de SS-20, l'installation des SS-20 en Europe orientale, la tentation à travers ces SS-20 de mettre, de finlandiser, comme on disait à l'époque, l'Europe occidentale, une situation extrêmement dure, des sociétés qui étaient en crise, le travaillisme britannique épuisé, les Français qui, avec le programme commun, se donnaient quand même une lecture économique qui était pour le moins étrange par rapport aux nécessités du moment. Donc une situation très dure. Donc 10 ans plus tard, ça allait beaucoup mieux et on avait un sentiment de grande réussite. Aujourd'hui, depuis 10 ans, c'est l'inverse. Le 11 septembre nous a refait basculer dans la tragédie et depuis, nous n'en sortons pas. Entre le 11 septembre, la guerre d'Irak, la guerre d'Afghanistan, la guerre d'Irak, les crises à répétition sur le plan européen, notamment la crise référendaire de 2005 et la crise économique avec ses multiples rebondissements, nous sommes vraiment dans le drame. Donc on a d'un côté, en apparence, une période faste, heureuse, la victoire par chaos de l'Europe occidentale, avec le concours des forces libérales, de l'Église, du Pape, enfin tout un ensemble de choses qui jouent et qui gagnent. Et puis maintenant, une situation contraire. Eh bien, je voudrais essayer de nuancer ce portrait. Analysons qu'est-ce que c'est que les années 90. Ce sont des années où l'Europe est triomphante, mais où elle est perçue, de plus en plus perçue, comme inutile. Triomphante, et on voit bien les 4 grands chantiers qui sont ceux de la construction européenne. Moi, j'ai été élu parlementaire européen en juin 89. Je dis souvent, donc ceux qui ont déjà, m'ont déjà entendu le dire, diront que je radote et que je fais de l'esprit à répétition, je dis souvent que ayant été élu en juin 89 député européen, je pouvais constater en décembre de la même année que l'ensemble de l'Europe de l'Est était libérée du joug soviétique. Je voudrais savoir combien de parlementaires pouvaient se flatter d'un bilan aussi impressionnant en si peu de mois de mandat. Eh bien, nous étions donc dans une situation de très grande, de très grand succès, et on a mené à bien, ouvert et mené à bien, 4 chantiers qui ont été des succès. La création du marché unique, qui n'était pas simplement un laisser-faire, laisser-passer, puisqu'il n'y avait pas de libéralisation sans harmonisation, et nous avons pris ces centaines de directives d'organisation du marché intérieur. Deuxièmement, la démocratisation des institutions. On oublie, parce que personne ne comprend rien au système institutionnel européen, on oublie que les réformes qui ont été introduites entre l'acte unique européen et certains aspects du traité de Nice, mais pour l'essentiel le traité de Maastricht, ont complètement transformé les relations politiques entre les institutions et ont profondément détechnocratisé les rapports entre la Commission européenne et le Parlement européen. Disons, pour faire clair, pour faire court, que la Commission est devenue un organe investi, contrôlé et même quasiment censuré en 99 par le Parlement européen élu au suffrage universel, avec des calendriers harmonisés, et deuxièmement, que le Parlement européen est devenu un législateur de plein exercice, à égalité de droits et de devoirs avec les gouvernements, votant la majorité qualifiée au sein du Conseil des ministres, ce qui est une logique fédérale classique, même si le fédéralisme est un gros mot qu'on n'ose pas prononcer en France ni en Angleterre. Les Anglais disent the F-word parce que c'est trop mal élevé. Mais c'était bien ça la réalité. Donc deuxième chantier, nous avons mené ça à bien. Troisième chantier, l'élargissement. Ça a été un succès. Qu'on ne me dise pas que l'Europe est malade aujourd'hui de son élargissement. Certes, on a ici et là des problèmes. Je vous dirais pas que la Roumanie ou en Roumanie ou en Bulgarie, il n'y a pas de corruption, et je ne vous dirais pas que les libertés publiques la vie démocratique obéit, respecte les canons que nous aimerions voir respectés. Mais globalement, ça marche. Moi, je me rappelle avoir fait un voyage en Bulgarie il y a quelque temps, et la Commission européenne venait de suspendre les aides, les fonds structurels, parce que elle trouvait, non sans raison, que c'était dépensé n'importe comment. Eh bien, j'avais été très frappé de voir que la réaction des Bulgares était toute de compréhension. On aurait dit ça aux Français, on aurait dit « quoi, ils se mêlent, la Commission, apatride, ces technocrates irresponsables, etc. » En Bulgarie, pas du tout. Les gens disaient « on a enfin des gens qui contrôlent la bande de corrompus qui dirige la Bulgarie depuis trop d'années. » Bon, c'était des réactions, tout ça était positif. On a eu un vrai problème avec le gouvernement tchèque, M. Klaus. On a eu un moment un problème avec le gouvernement polonais, mais ces problèmes ont été résolus et aujourd'hui les Polonais sont parmi les plus ardents défenseurs de l'Union européenne. Globalement, n'allons pas dire que les problèmes que nous avons aujourd'hui viennent de l'Est. Les problèmes, c'est que les Néerlandais sont devenus eurosceptiques, que le Royaume de Belgique a du mal à tenir debout, que l'Italie est dans l'état que vous savez. Je ne parle pas de l'État économique, mais de l'État politique, avec le dirigeant que nous savons. Et c'est ça, c'est donc au cœur de l'Europe que les problèmes se posent. Mais nous avons réussi cet élargissement à l'époque, et je pense que c'est un grand succès. Quatrièmement, nous avons, et c'était très difficile, réalisé l'euro. Donc, 4 grands défis qui, dans les années 90, ont été relevés par les Européens. D'où une tendance un peu au pharisaïsme, « Ah, comme nous sommes bons, comme nous sommes beaux, nous avons tout réussi ». Or, c'était abusif, car au même moment, le ver était dans le fruit. Pourquoi ? Parce que ce que nourrissait les années 90, c'était une triple illusion. Ce qui s'est révélé comme une triple illusion, mais qui, tel que ça a été vécu, était perçu comme quelque chose qui rendait l'Europe inutile. On avait le sentiment de 3 révolutions. Premièrement, une contagion des valeurs démocratiques et libérales irrésistibles à l'échelle de la planète, qui était prophétisée par Francis Fukuyama quand il proclamait la fin de l'histoire. Il ne voulait pas dire que l'histoire était finie, mais il voulait dire qu'on était parvenu au dernier stade de la réalisation d'une, peut-être a-t-il tort, peut-être a-t-il raison, d'une société politique qui ne pouvait être que libérale, pluraliste et démocratique. On avait le sentiment d'une marche irrésistible, plus ou moins rapide, plus ou moins lente, vers un modèle qui était le modèle de la démocratie libérale des puissances occidentales, tel qu'il était formalisé dans notamment la Déclaration universelle des droits de l'ONU. Deuxième certitude, l'expression là est de Minc, la mondialisation heureuse. Nous allons nous mondialiser et nous allons, à travers cette mondialisation, réaliser l'équivalent de ce que nous avons réalisé à l'intérieur de nos sociétés européennes depuis le XIXe siècle, c'est-à-dire l'intégration, l'élévation générale à travers une croissance répandue des classes inférieures de la société, donc une généralisation de l'embourgeoisement de l'humanité. Et donc, on avait le sentiment que le monde allait vers plus de convergence, vers plus de prospérité et plus de croissance. Troisième certitude, formulée celle-là par Hubert Védrine, l'hyperpuissance américaine. Nous n'avions plus besoin de rien, notamment d'armée, puisqu'il y avait une puissance qui écrasait toutes les autres, et dans cet univers politiquement démocratisé et apaisé, économiquement mondialisé et en voie de croissance et de réduction de tensions, de réduction des inégalités, eh bien, on avait un gendarme équipé d'une puissance technologique considérable et tout se passerait à merveille. Ceci conduisait à une conséquence précise, c'est que l'Europe ne servait à rien. Et cette théorie a été formulée par Gordon Brown, qui a dit « il n'y a rien entre Westminster et le monde, entre le Royaume-Uni et le monde. On n'a besoin de rien. L'espace européen n'est pas un espace pertinent d'organisation de la politique, de l'économie et de la défense. » Et ce sentiment, je vous le fais remarquer, s'est manifesté d'une façon quasiment simultanée au milieu des années 90, quand vous avez eu dans la plupart des pays la génération des europhiles des années 90 qui s'est vue relevée par une génération d'euro-tiède, voire d'euro-sceptique. C'est Aznar remplaçant Felipe González en Espagne, c'est Berlusconi remplaçant ces personnages, certes assez baroques et assez inquiétants à certains égards, comme Andreotti et Craxi, mais qui avaient vraiment œuvré en faveur de l'Union européenne, notamment au Conseil européen de Milan, avec beaucoup de talent. C'est Schröder remplaçant, et sa Deutsche Welle, le mot est clair, la voix allemande, qui a d'ailleurs de grandes qualités d'homme d'État par ailleurs, mais qui était vraiment assez indifférent, à la différence de Kohl, à la construction européenne, il remplace Kohl. Et enfin, c'est en France, Jacques Chirac, qui a été assez oscillant sur les questions européennes, mais qui éprouve pour l'Europe la même sorte d'indifférence qu'il éprouve à l'égard de toute chose. Donc, on a cette génération qui arrive. Je vous fais remarquer que c'est à ce moment-là qu'on fait l'euro. La décision finale, le moment où vraiment on tombe dans la marmite, comme dirait Uderzo, c'est le Conseil européen de Madrid, le dernier grand acte politique de Felipe González, en décembre 1995. Et c'est à ce moment-là que, comme un banc de poissons, dont toutes les bêtes changent simultanément de direction, se met en place une génération d'hommes politiques profondément indifférent aux Européens et qui va donc bâtir quelque chose qui, à côté du fédéralisme monétaire qui est hérité de l'époque précédente, va bâtir une politique budgétaire fondée sur un souverainisme budgétaire et une indifférence totale. Ce ciseau, ce ciseau-là que nous payons aujourd'hui parce qu'en Europe, tout est en retard. Tout se produit, tout se manifeste avec 15 ans de retard. Donc, années 90, Europe triomphante, Europe inutile. La décennie suivante présente l'image exactement inverse. Europe en souffrance, Europe nécessaire. C'est une course-poursuite. L'Europe est en retard, elle court après son ombre, comme dans le conte allemand. L'Europe est en retard par rapport à elle-même. Si elle triomphe dans les années 90, c'est parce qu'elle a été vaillante dans les années 80, notamment à travers le discours de François Mitterrand au Bundestag, la résistance au SS-20, qui prolonge d'ailleurs l'entente Schmitt-Giscard et qui va sceller, relancer véritablement une entente franco-allemande qui va produire ces quatre réalisations que j'ai évoquées tout à l'heure. Eh bien aujourd'hui, depuis le début de la décennie, nous vivons en revanche avec cet héritage complètement poissé de cette génération eurosceptique. Donc, en politique extérieure, la guerre d'Irak a été l'occasion d'un éclatement total de l'Union européenne, les Américains ayant décidé pour la première fois non pas de jouer la carte de la cohésion, comme ils l'avaient fait tout au long de la guerre froide, des Européens entre eux, mais de jouer au contraire de la carte de la division pour ne pas être embarrassés par des oppositions, puisque globalement l'ensemble des opinions européennes était plutôt hostile à la guerre d'Irak. On a cette première crise, on a une crise institutionnelle qui est absolument évidente, et la crise institutionnelle elle se résume de façon très simple. C'est le mensonge institutionnel de ceux qui font le traité de Nice. Le discours officiel, c'est il faut simplifier les institutions. Il faut donner un président unique à l'Europe. Il existait ce président. C'était longtemps le président Delors, c'était le président de la Commission. Et pour, au nom de l'idée qu'on allait simplifier l'exécutif, on a fini à travers tout un ensemble de transformations plus ou moins cosmétiques par créer un exécutif dans lequel vous maintenez la présidence semestrielle des États pour la quasi-totalité des conseils des ministres, à l'exception du Conseil des affaires étrangères et évidemment du Conseil européen. Premier président, la Pologne aujourd'hui. Deuxième président, vous mettez un homme, l'excellent Van Rompuy, comme président du Conseil européen. Bon, qu'est-ce qu'il devient? Il devient l'ennemi héréditaire du président de la Commission. Ben, c'est Montaigu Capulet, enfin, c'est la guerre des deux roses en permanence, et c'est évident, ça a été fait comme tel. On avait, alors on dit c'est beaucoup mieux, il est nommé par le Conseil européen, il n'est pas responsable devant le Parlement, le président de la Commission est nommé par le Conseil européen et responsable devant le Parlement. On en fait deux. Et troisièmement, pour compliquer l'affaire, on met un haut représentant qui est, alors lui, l'ennemi héréditaire des deux précédents, qui est cette excellente Madame Ashton, mais qu'on choisit en plus pour une raison simple, c'est qu'elle n'a aucune responsabilité en politique étrangère depuis sa naissance, donc elle est vraiment extrêmement ouverte sur les problèmes de ce monde, et on la met là, et elle préside le Conseil Affaires étrangères, elle participe du Conseil, elle participe à la fois de l'Europe des États, elle est vice-présidente de la Commission, voilà, ça s'appelle simplifier l'exécutif européen. Puis alors, évidemment, on a l'eurozone, donc on met Juncker à la tête de l'eurozone. Voilà ce qu'on appelle un système simple. Donc crise institutionnelle, crise économique, et alors, bon, crise internationale, je n'y reviendrai pas, mais elle est quand même profonde. On a eu l'Irak, on a eu la Libye. Il est quand même extrêmement préoccupant que sur le plan de la Libye, l'Allemagne ait pour la première fois de son histoire depuis l'après-guerre, depuis la guerre, voté avec la Russie et la Chine contre simultanément les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. C'est quand même quelque chose qui est assez lourd comme phénomène. Et enfin, sur le plan économique, nous avons une crise qui est extrêmement sérieuse, qui à mon avis, enfin là on va revenir sur la crise, mais enfin, je ne vais pas reprendre ce qui a été dit, mais je crois qu'elle trahit surtout, et c'est ça qui est important, et c'est ce qu'a sous-entendu Gaël Giraud, me semble-t-il, elle trahit une différence d'approche. Que ce qui caractérisait les Européens dans les années 80, ou avant, ou les années 50, c'était une approche qui était globalement keynésienne. Et là, on voit bien qu'il y a deux lectures de la crise, deux lectures de la stratégie, Et l'Europe est, autant l'Europe est capable de, d'éviter les malentendus inutiles, de surmonter les procès d'intention, d'éviter les dérapages, autant elle est mal armée pour surmonter un vrai dissensus. Or, on sent bien, j'y reviendrai, qu'il y a un dissensus. Donc on a une Europe qui est profondément en crise. Mais en même temps, et je terminerai, ensuite je pense que non, je répondrai à enfin on évoquera les problèmes économiques, etc. dans la discussion, mais en même temps, que s'est-il passé par rapport à nos grandes illusions? Eh bien justement, elles se sont dissipées comme des illusions. C'est-à-dire qu'on a vu que les valeurs démocratiques n'étaient pas contagieuses, qu'elles se heurtaient à des réactions intégristes, notamment dans le monde islamique, dans le monde musulman, extrêmement inquiétantes, et qu'elles se heurtaient à une dichotomisation complète de la plutocratie capitaliste économique pratiquée par les Chinois d'un côté, et leur rejet, enfin, et les valeurs démocratiques. Enfin, nous avions l'habitude de lier capitalisme et libéralisme. Les Chinois nous montrent, non, non, ça, on peut très bien fonctionner en combinant plutocratie et dictature, une dictature absolument sûre d'elle-même, arrogante et insusceptible d'être remise en cause à moyen terme. Donc on a ce premier choc, et ça c'est important. Parce que ça veut dire que l'espace européen redevient cet espace, je ne dirais pas exemplaire, parce que vraiment ce n'est pas exemplaire, mais fragile, menacé, où la liberté, le pluralisme, la pluralité dans l'information, le respect des droits fondamentaux, l'indépendance de la justice, ou tout un ensemble de choses sont globalement respectées. Et donc, nous redevenons ce que nous avions cessé de nous assumer comme tel, nous redevenons un espace particulier, dépositaire de valeurs universelles, mais inscrit dans un espace géographique particulier et par rapport auquel nous sommes relativement seuls, puisque pour des raisons X et Y, les Américains sont certes nos amis, mais sont aussi nos rivaux, et nous n'avons plus du tout avec eux la même sorte de relation que celle que nous avions pendant la guerre froide. L'Amérique, l'Europe avait été un modèle pour l'Amérique avant 1939, l'Europe avait été un enjeu pour l'Amérique entre 1945 et la chute de l'Union soviétique, et maintenant l'Europe n'est ni un enjeu ni un modèle, c'est un associé rival pour les États-Unis. C'est une situation très différente. Donc nous redécouvrons cette particularité politique de l'espace européen. Deuxièmement, nous redécouvrons sur le plan économique que la mondialisation n'est pas heureuse, comme l'espérait Alain Minc, mais qu'elle est profondément asymétrique, que la crise, comme le dit Warren Buffett, la crise, quand elle se retire, c'est comme quand la mer se retire, elle révèle les nageurs qui ont des maillots et ceux qui sont à poil. Et on appartient, on a un peu tendance à appartenir, comme nous l'a savamment démontré Gaël Giraud, à la catégorie des dénudés. Bon, donc nous voyons, et ça c'est très important, parce que nous savons, ça ne veut pas dire qu'il faut se démondialiser, moi je ne crois pas du tout un seul instant à ces choses, je crois que nous vivons dans un cadre mondial, je ne dirais pas pour l'éternité, mais enfin pour une longue période, nous vivons dans un cadre mondialisé, mais nous sommes confrontés à une réalité asymétrique, si vous voulez, et nous savons que nos problèmes de croissance ne sont pas simplement des problèmes cycliques, est-ce qu'on est en cycle favorable ou défavorable, etc., mais que nous sommes confrontés à des inadaptations structurelles de notre marché du travail, de notre appareil de formation, de notre capacité d'innovation, de l'organisation de nos services publics, de la façon dont on dépense l'argent public, tout un ensemble de choses qui appellent des réformes structurelles, qui ne sont pas nécessairement des réformes libérales, mais qui sont des réformes en profondeur de notre système. Et donc, là encore, nous nous regardons vis-à-vis des autres, et nous savons bien que dans ce monde asymétrique, eh bien, l'union fait la force, et que si nous arrivons débandés face aux émergents, ce qui ne veut pas dire que si nous soyons unis, nous devons être agressifs à l'égard des émergents, si nous sommes débandés, nous sommes finis. Donc on a cette affaire-là, et sur le plan militaire, nous voyons bien notre vulnérabilité. L'Amérique n'est pas l'hyperpuissance, et nous sommes aux premières loges. Ce qui se passe au Moyen-Orient ou en Asie centrale nous concerne avant tout le monde, avant les autres, en termes migratoires, en termes terroristes, en termes éventuellement de conflits très chauds, voire nucléaires. Nous sommes donc vraiment aux premières loges. Et donc, voilà la situation où nous sommes. Nous sommes à nouveau confrontés à un besoin d'Europe, mais nous traînons derrière nous ces 10 ans, 95-2005 ou 2009, même ces 15 ans, d'euro-tiédeur, d'euro-scepticisme, d'euro-indifférence. Nous avons laissé se désorganiser notre capacité d'union, nous avons laissé fleurir les populismes, nous avons laissé les marchés sans réagir, nous n'avons pas mené de politique budgétaire commune, nous n'avons pas assumé solidairement le destin que nous nous étions promis d'assumer quand nous avons créé la zone euro. Et c'est cette course-poursuite qui caractérise l'Europe, et je m'arrêterai là, cette course-poursuite, car aujourd'hui, c'est un peu une course darwinienne entre la fonction et l'organe. Nous avons à nouveau besoin d'une Europe extrêmement forte, mais nous avons laissé dépérir l'organe, et non seulement l'organe matériel, mais l'organe spirituel, si je puis dire, l'esprit commun, l'esprit qui doit nous animer si nous voulons agir ensemble, et nous sommes en train de le reconstruire. Et nous sommes donc dans cette course terrifiante où d'un côté les forces de délitement, de destruction, de rupture sont à l'œuvre, et où d'autre part les hommes politiques, et je trouve que globalement je suis un peu plus optimiste que je ne l'aurais été il y a 6 mois ou il y a 9 mois, les hommes politiques européens sont en train de renaître à la nécessité de faire quelque chose ensemble, mais ils y renaissent empiriquement en ayant détruit derrière eux leur vaisseau, sans avoir les concepts qui leur permettent d'aborder la phase ultérieure, et ils marchent dans le passé n'éclairant plus l'avenir, pour reprendre la formule de Tocqueville, ils marchent dans le brouillard, ils ne savent pas où ils vont, mais ils savent confusément qu'ils doivent y aller ensemble. Et c'est ce contraste-là que nous vivons aujourd'hui, qui est un contraste tragique. Nous sommes en train de renaître, mais c'est un accouchement qui se produit au bord d'un gouffre. Alors, on ne sait pas si le bébé, la mère, et peut-être le père aussi, vont tomber dans le gouffre, ou si on va vraiment assister à quelque chose de nouveau. Mais voyez, il faut bien comprendre cela. Il y a 10 ans, Europe triomphante, mais en fait Europe minée par un sentiment croissant et tout à fait abusif d'inutilité. Aujourd'hui, Europe débilitée, Europe abaissée, humiliée, disloquée, mais en même temps, Europe qui sent en elle-même qu'elle doit maintenant, elle a le dos au mur, et elle doit faire quelque chose. Ce quelque chose, ce sera la seconde partie de la soirée qui nous permettra de dire ce que c'est. Je vous remercie.
Voilà, alors restons donc pour la deuxième partie de la soirée. On n'est pas couché ici. Merci beaucoup, Jean-Louis Bourlange, dans ce brouillard, justement, de cet éclairage précieux que vous venez de faire pour comprendre la situation, avec tout le champ historique que vous avez rappelé. C'était sûrement indispensable pour que nous entrions véritablement dans la réflexion, et des propos qui, même si je ne sais pas si vous êtes optimiste ou pessimiste, sans doute un peu les deux à la fois sur ce sujet de l'Europe, des propos qui nous permettent quand même de penser que les choix politiques et les hommes politiques ont encore leur rôle pour envisager l'avenir de cet espace particulier face à notamment à des logiques économiques et financières qui semblent mener le jeu. Alors, je crois que le temps est largement venu que nous passions au débat. Un micro va se promener. Merci Romain de l'allumer d'abord. Promeneur de micro, c'est une fonction noble. Peut-être que, Pierre, tu voulais commencer toi-même par une question avant de recueillir quelques-unes dans la salle.
Oui, je cherche le petit vasistas qui donnerait l'air frais. Parce que finalement, vous êtes quand même aussi assez pessimiste, assez noir, monsieur Jean-Louis Bourlange, sur notre situation. La triple crise institutionnelle dans laquelle les trois chefs de la crise institutionnelle, ils sont là attachés et ils ne bougent pas. Donc,
j'ai laissé là. On ne peut pas dire que nous soyons restés sans. Nous soyons restés sans réaction depuis 2 ans.
Oui, il y a des mouvements. Moi, ce que je voudrais peut-être poser à Gaël, la question, c'est, puisqu'il met sur la question du choc pétrolier une des responsabilités pour le ralentissement et la difficulté économique, qu'est-ce qu'il entend par transition écologique? Et finalement, ça répond en effet à une interrogation que tout le monde se pose sur l'avenir un peu environnemental. Est-ce qu'on a les moyens de cette transition, ou est-ce que c'est simplement une sorte de vœu pieux en disant il serait bien d'aller par là parce qu'il y a une sortie, mais justement pour l'air frais, mais est-ce qu'on en a les moyens?
Alors, si la question c'est est-ce qu'on en a les moyens financiers, la réponse immédiate c'est non, sauf si on consent à autoriser la Banque Centrale Européenne à créer de la monnaie pour ça. On pourrait tout à fait imaginer que les pays de la zone euro, ensemble, se disent, on est face à une situation d'urgence unique dans l'histoire, inouïe. On a à faire une révolution qui est au moins aussi importante que la révolution industrielle. La monnaie, finalement, c'est une convention. C'est des lignes écrites sur un écran d'ordinateur. La question énergétique qui est devant nous, c'est la réalité physique qui s'impose à nous, qui fait que le monde est fini et qu'on aura beau faire ce qu'on voudra et s'agiter comme on voudra, la Terre restera finie. Donc, il faut changer les conventions de manière à nous permettre de faire face à cet enjeu énergétique qui est majeur. Alors, l'enjeu énergétique, il est que... Alors, il y a énormément de débats techniques dans lesquels je ne vais pas rentrer maintenant, mais grosso modo, quand même, nous allons avoir une certaine pénurie de la quantité de pétrole disponible tous les jours sur la planète à un certain temps, enfin, je veux dire, à une certaine époque qui peut être dans 2 ans ou dans 10 ans, en fonction du succès des techniques non conventionnelles d'extraction du pétrole dans les années qui viennent. Mais je crois qu'il n'y a pas de débat sur le fait que ce qu'on appelle le pic du pétrole, c'est pour dans les années qui viennent. Et ça veut dire que, en gros, disons, d'ici 15 ans, il n'y aura pas suffisamment de pétrole pour tout le monde, pour tous les jours. Et donc, il est urgent que nous, en Europe, nous commencions à adopter nous-mêmes notre propre transition de manière à rendre notre économie moins dépendante des énergies fossiles et en particulier du pétrole. Ce qui serait tout à fait intelligent dans la mesure où ça nous permettrait de prendre une longueur d'avance sur le reste de la planète, sur ces questions-là. Par exemple, mettre au point des petits... Alors, je prends un exemple très simple, que j'ai connu d'un certain nombre de gens dans la salle, qui travaillent sur les voitures, mettre au point des petites voitures qui pèseraient 100-200 kilos et qui consommeraient 1 litre au 100, c'est faisable, semble-t-il. Moi, je ne sais pas faire, évidemment. Il y a des ingénieurs qui savent faire. Il faut mettre les moyens pour avancer dans cette direction, vous voyez. Il y a plein, disons, d'innovations technologiques que nous pourrions faire, sur lesquelles nous pourrions devenir des leaders mondiaux, pour ensuite aider le reste de la planète à amorcer lui-même sa transition écologique et énergétique. Sur la question écologique proprement dite, comme vous le savez, il faut diminuer de manière drastique la quantité de gaz à effet de serre que nous émettons. Pour ça, par exemple, il faut capturer le CO2 dans les usines à charbon, puisque le charbon reste, avec le pétrole, l'une des sources majeures de l'énergie sur la planète. Et nous avons le savoir-faire technologique, nous avons les ingénieurs et l'intelligence qu'il faut pour développer des machines à capture de CO2 dans les usines à charbon. Alors, vous voyez, la question n'est pas technique. Semble-t-il, si je crois à ce que me racontent mes amis ingénieurs, c'est faisable. La question, elle est financière. Et comme nos États, comme vous le savez, ont des caisses qui sont vides, comme le privé peut difficilement financer des investissements qui ne rapportent rien à hauteur de 2-3 ans, qui rapporteront beaucoup dans 20 ans, mais qui ne rapportent rien demain matin, je crois qu'il n'y a pas tellement d'autres solutions, si on veut vraiment adresser cette question, que par exemple d'autoriser la BCE à créer de la monnaie. Et ça suppose une révolution intellectuelle, politique, philosophique, dans notre propre rapport à l'argent. Comprendre que la monnaie, c'est une convention, c'est des lignes sur un écran d'ordinateur, et qu'il faut changer les conventions de manière à pouvoir vivre. Voilà.
Merci. Alors, on va maintenant recueillir un certain nombre de questions dans la salle. Donc, n'hésitez pas à bien lever le doigt. Je pense qu'il y en aura beaucoup. Et puis, on va en recueillir 3 ou 4. Voilà. Romain. Parlez monsieur, bien fort.
Monsieur, vous avez évoqué donc la position allemande divergente sur le conflit libyen. Est-ce qu'il ne faut pas y voir la marque du pragmatisme allemand qui permet à ce pays d'imposer ses conditions pour la création de l'euro, pour les échanges extérieurs? Est-ce que finalement, ce n'est pas comme ça que les Allemands arrivent, en se distanciant, à parvenir à leur fin et à imposer leurs conditions?
Très bien, merci. Il y a une question par là devant.
Oui, c'est peut-être un vasistas. On n'a pas parlé de l'écart entre les riches et les pauvres jusqu'à présent. Et il me semble que quand on a une grosse dette, de l'autre côté, il y a forcément une grosse créance. C'est-à-dire que si on augmente la monnaie, on va augmenter la bulle et de dette et de créance. Et on aura une solution très provisoire parce que l'argent a tendance à se réfugier chez les riches. Donc, si on regarde le cas de la France, il me semble qu'il y a 2000 milliards de dettes et il y a 10 000 milliards de patrimoine. Ce patrimoine, à 60%, est entre les mains de 10% de la population. Donc 10% de la population possède 6 000 milliards. Il me semble que la solution évidente, c'est un impôt très progressif, à la fois sur les revenus et sur la fortune, sur le patrimoine.
Merci. Levez les mains, voilà, au milieu, Normand, voilà, le monsieur en rouge, voilà, levez bien la main, voilà, merci de faire passer le micro. Question.
Oui, vous avez parlé de l'euro et de l'Europe et de la taxe Tobin. Alors pourquoi est-il si difficile à la zone euro de mettre en place une taxe Tobin, même si le Royaume-Uni, qui ne fait pas partie de la zone euro, ne le souhaite pas?
Merci, on va s'arrêter là pour l'instant. On commence peut-être par l'Allemagne, le rôle de l'Allemagne, et puis on reviendra sur les questions économiques qui ne sont pas sans lien avec le politique.
Écoutez, moi j'ai quand même, enfin, il y a beaucoup de choses à dire. C'est très difficile de répondre de façon particulière à ces questions qui sont très, très bonnes. Parce qu'il faut quand même se mettre d'accord sur l'analyse. Moi, je ne suis pas entièrement d'accord avec ce qu'a dit Gaël Giraud sur l'analyse de l'endettement. Je crois, je le suis tout à fait sur un point important, c'est que je crois que la Grèce ne paiera pas. Je pense qu'on demande, la Grèce, c'est le modèle absolu de la contradiction, on demande à la Grèce des choses impossibles, et elle ne fait pas, quant à elle, le minimum de ce qu'elle pourrait faire. Donc le ciseau est total. Et je ne vois pas de solution, pour les raisons qui ont été exprimées très justement, me semble-t-il, par Gaël Giraud, je ne vois pas de solution quand on voit une accumulation de la dette nécessairement considérable, avec une politique récessionniste, parce que, de toute manière, en Grèce, rien ne marche. C'est une espèce d'oligarchie héréditaire, incompétente et corrompue, qui est très sympathique, d'ailleurs, ils sont très sympathiques. Moi, j'aime beaucoup les Grecs, mais ça ne va pas. Quelle que soit la solution qu'on préconise, on pourrait dévaluer de 50%, comme ils produisent assez peu de choses, ça augmenterait massivement, ça dégraderait massivement leur pouvoir d'achat. Il y a vraiment un problème massif, et je crois que les accords du 26-27 octobre ne permettent pas de résoudre le problème. Je pense que là, il y a une vérité à laquelle on ne peut pas, Sarkozy, Merkozy, comme on dit maintenant, peuvent se donner le sentiment que la solution est trouvée. Ça n'est pas vrai. Je suis d'accord avec Gaël Giraud sur ce plan-là. Je pense qu'on doit aller au défaut. Et alors, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que c'est à cause des banques qu'on ne le fait pas. Je pense que si on va au défaut, de toute manière, on soutiendra nos banques. Alors, effectivement, il vaut mieux qu'on les soutienne avec des conditions ou sans conditions. Bon, on sait très bien comment est la vie, hein, on fait plus ou moins les choses bien. Mais on soutiendra nos banques. Ce qui a retenu Ce qui a retenu les gens du le Conseil européen, et notamment les Français et les Allemands, d'aller au-delà de 50%, or 50% compte tenu du fait que les banques ne détiennent qu'une partie de la dette grecque, ça veut dire que quand vous faites une coupe de cheveux de 50% sur la dette grecque, la dette bancaire des Grecs, vous continuez à avoir une dette qui est à 130% du PIB, donc vous n'avez pas la moindre chance que les Grecs puissent la payer. Ce qui a retenu le couple d'aller plus loin, c'est simplement qu'ils ne pouvaient pas aller plus loin sans prononcer le défaut, et donc sans faire jouer juridiquement les mécanismes assurantiels qu'étaient les CDS. Et à ce moment-là, ils avaient le sentiment, à tort ou à raison, moi je crois que de toute manière on en est là, mais ils avaient le sentiment que ça aurait un effet de contagion considérable, puisqu'à partir du moment où on prononçait le mot défaut, ça veut dire qu'aux yeux des marchés, il y avait dans l'ensemble des États européens une option qui est: je paye mes dettes ou je ne paye pas mes dettes. Et à partir du moment où on met sur le même plan ces deux options, bah évidemment les marchés s'affolent. Et donc on aurait eu, c'est beaucoup plus que pour protéger les banques, c'était ça la crainte, on aurait eu un effet d'emballement des CDS sur les autres pays, et on aurait eu une embardée massive des taux d'intérêt. Alors là où je crois de manière, on l'a, on voit bien ce qui se passe en Italie, cet effet de contagion, on l'a nécessairement. On a un défaut qui n'ose pas dire son nom sur la Grèce et qui est partiel. Si on avait un défaut complet, on résoudrait le problème grec, mais enfin on le résoudrait, on s'en débarrasserait en tout cas, mais on aurait des effets de contagion et on aurait besoin effectivement d'un pare-feu absolument considérable. Bon, et donc c'est ça qui a retenu les marchés. Alors, deuxième remarque préalable aux questions, deuxième remarque, là où je ne suis pas d'accord avec vous, en revanche, d'abord je crois que toutes les situations sont différentes. Regardez, le problème irlandais n'était pas un problème de compétitivité. Le problème grec est un problème de compétitivité. Le problème espagnol est un problème de compétitivité. Et le problème italien un peu. Et ça, ce sont des problèmes graves. Parce que quand vous avez laissé dériver vos coûts de production, vous avez fait un ciseau par rapport aux coûts de production en Allemagne, par exemple, ce qui est le cas, et que vous avez une monnaie qui n'est pas dévaluable, ce qui est la définition de l'euro, vous êtes dans une situation de problèmes de compétitivité structurelle extrêmement graves. Et ça implique, et c'est là où nous traînons les conséquences des bons choix qui n'ont pas été faits depuis 15 ans et qui sont très lourds. Ça n'est pas le cas de l'Irlande. L'Irlande, moi je trouve que vous êtes un peu sévère, c'est pas simplement un paradis fiscal. L'Irlande c'est un pays périphérique qui s'est donné effectivement des avantages fiscaux, mais qui a une main-d'œuvre, qui a accueilli une main-d'œuvre immigrée très importante, qui a fait preuve de beaucoup d'initiatives et de souplesse. Alors, ils ont fait une très grave erreur bancaire, ils se sont lancés dans une bulle immobilière à l'américaine et à l'espagnole, c'est ça qui les a plombés en termes de comptes publics, mais ça n'est pas de même nature que les autres. Quant aux Italiens, je suis plus optimiste que vous, comme pour les Français. Les Italiens, ils ont un solde primaire positif de leur budget. Ils ont en revanche une dette qui est très élevée, mais enfin, bon, qui est plus élevée que la nôtre, et qui est très élevée, qui était jusqu'à présent, qui avait deux caractéristiques. Elle avait une maturité longue, donc c'était pas urgent, et elle était, comme la dette japonaise, elle était assez largement financée par les classes moyennes italiennes. Vous avez ces deux éléments se sont dégradés ces derniers mois. Les Italiens ont été obligés de se refinancer de plus en plus à court terme. Ils ont été et les classes moyennes italiennes, crise politique en particulier aidant, ont cessé d'acheter des obligations d'État. Donc la dette s'est internationalisée. Elle s'est alignée sur la dette française, si je puis dire, avec un volume beaucoup plus important. Et du coup, on a alors là des taux d'intérêt au-dessus de 6 et 7% qui sont effectivement ingérables, je suis d'accord avec ce que dit Gaël Giraud, qui sont ingérables à court terme. Mais je crois quand même que c'est très très lié à la présence d'une autorité politique qui n'a pas de majorité parlementaire, pas d'autorité morale et qui n'a absolument pas de volonté politique de résoudre les problèmes. Je ne dis pas que le départ de M. Berlusconi serait la solution de tout, mais je pense que ce serait quand même le remplacement de M. Berlusconi par une équipe responsable apporterait certainement une détente, à condition qu'on fasse aussi des efforts de solidarité entre nous. Alors, dernier point, et ensuite je réponds en deux mots à la question, mais dernier point sur la question de la solidarité, la monétisation, moi je suis, je ne sais pas, je dois dire que je suis hésitant sur la monétisation, parce que je comprends très bien le raisonnement, et je ne diabolise pas l'idée de monétiser la dette, de faire disparaître la dette dans un grand trou qu'est la Banque Centrale Européenne. Je pense quand même que ça atteindrait assez profondément la crédibilité de la Banque Centrale. Peut-être n'en est-on plus là. Mais ce que je vois, c'est que ça ne se fera pas. Parce que là, les Allemands, c'est contraire à leur doctrine. Vous avez raison sur la déflation et le nazisme, mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'ils ont perdu. Les Allemands ont été lessivés par l'inflation dans les années 20. Ils ont été lessivés dans l'inflation... par l'inflation après la Seconde Guerre mondiale, ils ont un souvenir cauchemardesque de tout ça, et ils ont, derrière tout ça, ce sont des gens qui n'ont pas assimilé l'immoralisme keynésien, c'est-à-dire qu'on pouvait être prospère en jouissant. Ce qui est quand même la base du keynésianisme par rapport au puritanisme du XIXe siècle. Et l'idée que les Grecs et quelques autres, après avoir fauté comme ils ont fauté, on puisse leur dire, allez, c'est fini, d'être, on efface tout, etc., on recommence, ça passe pas en Allemagne. Ça ne passe pas. Nous, on sais pas si c'est catholique contre protestant, on a inventé la pénitence, enfin, on a des trucs, nous. Mais en tout cas, ça ne passe pas. Et là, l'idée de ne pas sanctionner moralement des gens qui sont mal conduits, c'est quelque chose. Alors c'est pénible. Alors, évidemment, quand on dit ça à Sarkozy, il n'est pas dans la même galaxie que Madame Merkel. Mais on a un problème. En revanche, je crois quand même. Alors je suis quand même, quand on analyse toutes ces choses, je crois qu'il faut avoir une vision plus différenciée de toutes ces économies. Et je pense qu'on peut faire, on peut faire, mais ça c'est quand même important répondre à ça.
Ça aussi, c'est chaud.
Oui, on peut quand même faire des pare-feux importants. Monsieur Achenbach, qui est le président de la Deutsche Bank, qui est très proche de Madame Merkel, était à Paris la semaine dernière, et il évoquait des pistes. On peut, par exemple, si on garantit la dette italienne à hauteur de 20%, c'est-à-dire que ça veut dire qu'on dit au marché, s'il y a un défaut de 20%, ça sera bon, on peut faire baisser très sensiblement les taux d'intérêt, engager des réformes structurelles et faire un certain nombre de choses. Donc, voilà ce que je voulais dire sur le fait que j'ai été dépassé dans le pessimisme par Gaël Giraud, mais malgré tout, je crois que quel que soit mon pessimisme, je pense qu'on doit quand même pouvoir faire des choses ensemble si on s'y met. Alors pour les Allemands, non, moi je crois qu'il ne faut surtout pas essentialiser l'Allemagne et dire l'Allemagne, ils sont comme ça, ils sont comme ci. En réalité, on comprend très bien ce qu'ils font. Pourquoi ils ont pas voulu aller en Libye? Pour des raisons complètement idiotes, mais compréhensibles. Enfin, complètement idiotes, non. Complètement incompréhensibles pour nous. Sarkozy a dit, ça va pas. Il faut liquider le Bédouin. Bon. Et donc, il s'est lancé, on a dit, mais comment vous faites? Ça va pas, la volonté politique. Les Allemands, c'est exactement l'inverse. Le chef d'état-major est allé voir Merkel, a dit, mais ça va pas, avec une aviation, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça, on est engagé en Afghanistan, et donc le raisonnement technique a prévalu. Et là où ils ont manqué totalement de subtilité, alors, c'est de ne pas avoir voté la résolution tout en se dégageant de l'implication. Ils n'étaient pas du tout obligés de participer aux opérations, ils pouvaient très bien dire qu'ils allaient en Afghanistan, et qu'ils avaient l'Afghanistan, qu'ils ne voulaient pas couvrir en même temps l'affaire libyenne, mais ne pas manquer à la solidarité avec les Britanniques, les Français et les Américains à l'ONU. Je crois que là, il y a une erreur. Mais les Allemands, sur le fond, ils ont considérablement évolué, assumé des choses. Les Allemands ont joué un rôle très négatif sur le gouvernement économique européen. Ils ont cru tout au long des années 90, qu'il suffisait d'avoir ce pacte de stabilité pour consentir. Comme dit Pascal Lamy, le pacte de stabilité, c'est un code de la route qui comprendrait trois articles. Essayez de réguler la circulation automobile avec un code de la route où on dit simplement, vous n'avez pas le droit de stationner devant une école, vous respectez les sens interdits et vous n'allez pas au-delà de 130 à l'heure. Je vous assure que si vous avez que ces trois instruments pour réguler la circulation automobile, vous aurez une sacrée pagaille dans les villes et dans les routes, sur les routes. C'est ça. Et alors les Allemands ont dit non, pacte de stabilité, on juridifie tout ça et puis chacun fait ce qu'il veut. Et bah, ils ont évolué. Maintenant, ils veulent qu'on fasse des choses ensemble. Alors, ils sont un peu côté surveiller et punir. Il faudra aussi leur dire inciter, stimuler, impulser. Ils étaient contre le bail-out. Ils ont dû passer par le bail-out. Ils ont accepté que toutes les incartades de Trichet, les entorses que Trichet a fait subir au statut de la Banque centrale, contrairement au traité, ils ont avalisé tout ça. Le problème de Mme Merkel, c'est qu'elle n'a jamais anticipé politiquement et qu'elle a passé sa vie à accepter 6 mois après des choses qu'elle avait solennellement condamnées 6 mois avant, d'où sa faiblesse politique. Mais je pense que par saccade, les Allemands sont revenus, et là c'est quelque chose de très important, je pense qu'ils sont revenus à l'idée que l'euro n'était pas simplement un cadeau que dans leur grandeur, ils avaient donné au reste de l'Europe en échange de la réunification, ce qui était leur interprétation fondamentale de la création de l'euro, parce que Kohl leur avait nécessairement vendu ça comme ça, en disant « il faut qu'on donne un gage européen en échange de la réunification, on sacrifie, on immole le mark sur l'autel de l'euro ». Et donc ils ont toujours pensé que c'était un cadeau, et l'opinion allemande continue de le penser largement, mais l'ensemble des élites, des patrons, il y a des tas de sorties, on dit non, l'euro c'est la condition de nos exportations, c'est quelque chose qui est bon pour nous, et aujourd'hui je trouve que les Allemands, je ne dis pas qu'ils ont la même approche économique que les autres, il y a un vrai problème, mais ils ne sont pas aussi psychorigides qu'ils en ont l'air.
Merci Gaël, aussi brièvement que cela est possible de répondre à des questions aussi fondamentales.
Je réponds très vite aux deux questions qui étaient posées sur la gauche. La question des inégalités. Donc c'est vrai que, de fait, il y a un problème comptable qui est que le caractère apparemment débiteur de l'Europe vis-à-vis du reste du monde financièrement est une illusion. En réalité, les créanciers de l'Europe sont en Europe. Donc c'est des résultats tout à fait récents de chercheurs qui sont certains de mes collègues. La plupart des créances sur les dettes européennes sont détenues par des Européens. Simplement, elles ne figurent pas dans les comptes publics officiels parce qu'elles sont dans les paradis fiscaux européens, au premier chef desquels la Suisse. Donc c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec la personne qui a soulevé cette question. Il y aurait aussi un enjeu manifeste qui serait de régulariser la question des paradis fiscaux que nous admettons au sein même de l'Europe et qui, d'une certaine manière, abrite les créanciers qui détiennent les créances sur les dettes des Européens. Deuxième enjeu, la réduction des inégalités. C'est tout à fait vrai, je suis absolument d'accord. Une augmentation massive de l'impôt sur le revenu des hauts revenus serait aussi une manière d'avancer sur la question de la réduction du déficit public. Vous savez que revenir simplement au système fiscal français de 2000 permettrait à l'État français de gagner chaque année entre 60 et 100 milliards d'euros. Donc c'est beaucoup plus que les 8 petits milliards que nous promet le plan d'austérité actuel. Alors, le deuxième point, c'est la taxe Tobin. Pourquoi est-elle si difficile à mettre en œuvre? Alors, c'est vrai que d'une part, vous avez le Royaume-Uni qui s'y oppose, et donc c'est compliqué parce que, vu l'interpénétration des marchés financiers, les deux grandes places financières en Europe aujourd'hui, c'est Londres, la City et Francfort. Et donc si vous n'imposez la taxe Tobin que sur l'Europe continentale, il est vraisemblable que vous aurez une migration des capitaux qui vont aller sur les places financières plus intéressantes. Vous n'aurez pas de taxe Tobin comme Londres. Bon. Donc ce n'est pas évident de la mettre en place si Londres n'est pas d'accord. Mais je crois que ce n'est pas ça l'obstacle majeur. L'obstacle majeur, c'est le lobbying très intense des banques qui n'en veulent pas. Voilà.
Merci. On reprend une petite série de questions. Romain, monsieur, vous vouliez...
Oui, ben ça... voilà, oui moi j'avais une question. Oui, j'avais une question autour de la question énergétique pour le deuxième micro, en fond de salle, merci. Autour de la question énergétique d'un côté et la question politique de l'autre, ou autrement dit, entre la question économique autour de l'énergie et la question politique de l'autre. Sans parler des Grecs ou des pays qui nous sont finalement relativement éloignés, si on se recentre un peu sur la France, ou d'après ce que j'ai compris de ce qu'a dit Gaël Giraud aujourd'hui dans ses articles de projet d'études, la situation est loin d'être facile à traiter. Je voudrais poser la question du nucléaire. Est-ce qu'il n'y a pas une terrible pesanteur en France à prendre des décisions qui vont vers une harmonisation avec les Allemands qui, eux, ont décidé de sortir du nucléaire, qui ont décidé de dynamiser les énergies renouvelables, et alors qu'en France, ce sujet est un sujet quasiment tabou du débat démocratique. Il n'y a jamais eu de débat démocratique en France sur la question d'énergie renouvelable. Il y a
voilà, je crois qu'on
à ce sujet-là, comme à d'autres, je parle de ce sujet, mais il y a d'autres sujets fondamentaux pour l'avenir. Merci. À long terme, à 10 ans, 20 ans. Est-ce qu'on n'a pas vraiment un problème de démocratie en France également?
Merci. On va prendre une question qui était là devant Nathan tout à l'heure.
Oui, tout à l'heure, vous avez parlé d'un monde fini. Est-ce qu'un monde fini, la conception d'un monde fini est compatible avec une baisse du chômage?
Voilà, on va prendre une troisième question. On va monter un peu plus haut sur la droite, sur ta droite, Romain, sur ta droite. Voilà.
Oui, sur la mise en œuvre de solutions, j'ai deux questions. Monsieur Bourlange, il y a un nom que vous n'avez pas évoqué, c'est celui de Monsieur Barroso, mais vous avez évoqué celui de Monsieur Delors, ce qui est assez révélateur de l'importance qu'a la méthode intergouvernementale, il me semble, en ce moment. Donc je voulais savoir qu'est-ce que vous pensiez de la méthode intergouvernementale qui prend le pied quand même pas mal sur la méthode de communautaire, me semble-t-il. Et la deuxième question, c'est sur la notion du temps. Il y a un an, en novembre 2010, j'écoutais M. Gauzès et M. Canfin qui disaient, tout ce qu'on met en œuvre au niveau du Parlement européen, c'est pas mauvais, mais ça met beaucoup, beaucoup de temps. Qu'est-ce que vous pensez, tous les deux, de la notion du temps dans cette histoire-là, pour la mise en œuvre de solutions au niveau européen? Et quand je regardais le nom de la conférence, je me disais crise de l'euro, crise de l'Europe, peut-être crise de la démocratie aussi. Donc, je ne sais pas si vous avez deux mots à dire sur ça.
Merci bien. Voilà. Alors, c'est très divers. L'énergie, le monde fini, la manière de procéder de M. Barroso avec la question du temps, les politiques. Je ne sais pas si Jean-Luc Bourlange voulait commencer.
Je vais dire quelques petites choses rapidement.
Alors,
d'abord, sur le monde fini, je ne sais pas si le monde fini peut créer de l'emploi ou pas. Ce que je sais simplement, et ça aborde la question de la démocratie, c'est que moi, je me fais une idée extrêmement simple de ce que nous vivons sur le plan politique actuellement. Je ne parle pas de la politique intérieure française. Nous vivons simplement un décalage absolu entre la mondialisation, pas seulement des échanges commerciaux, mais la mondialisation des technologies, des échanges commerciaux, bien sûr, des échanges financiers, des échanges bactériels, des migrations de population, des habitudes culturelles. Nous sommes dans un monde qui est vraiment en train de s'unifier très très rapidement. Je ne vois pas qu'on puisse aller contre. Et face à cela, nous avons un cloisonnement néolithique de l'organisation politique, où la souveraineté est organisée de façon néolithique, comme un pouvoir absolu d'un certain nombre de gens, symbolisé par des postes de gendarmerie dans les cantons, sur un territoire donné, un précaré donné. Et nous avons donc une juxtaposition d'États néolithiques. Et ça ne marche pas. Alors, il faut... Et l'écart entre l'un et l'autre, c'est fondamental. Et le paradoxe extraordinaire, c'est que cet écart tragique, qui fait que les gens ont le sentiment justifié que les problèmes qui les concernent, les problèmes politiques, les problèmes énergétiques ont été évoqués par Gaël Giraud et d'autres, ne sont pas traités au niveau où il faudrait, eh bien ça les conduit à quoi? À vouloir se claquemurer, enfin pour une partie d'entre eux, vous voyez bien à quelle partie je fais allusion, à l'extrême gauche et à l'extrême droite bien sûr, à se claquemurer dans des réflexes antimondialisateurs protectionnistes, qui n'ont aucun sens, qui sont une sorte de défi aux enjeux qui sont les nôtres. Donc moi, c'est cela qui est le tragique de notre situation. Je pense que nous devons penser
crée des conditions de gouvernance mondiale, que c'est extrêmement difficile et que la gouvernance européenne est un élément indispensable dans cette création. Mais je crois qu'il faut se ramener à cet essentiel. On a des problèmes qui sont transnationaux et on a un ensemble de gens qui n'arrêtent pas de dire qu'il faut se replier sur des frontières nationales pour les traiter. Eh bien ça, comme on dit dans les guignols, toc toc. Alors sur M. Barroso, j'ai beaucoup d'admiration pour M. Barroso, j'ai toujours dit de lui ce que je vais dire ce soir, c'est un homme qui ne dit rien en cinq langues.
Merci. Gaël.
Sur la question du nucléaire, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par l'intervenant. C'est vrai que nous n'avons pas eu de débat sur le nucléaire en France. Nous n'y échapperons pas tôt ou tard. Voilà. Sur la question du monde fini et de la baisse du chômage. Je pense que le fait que notre monde soit fini, c'est la chance pour que le chômage diminue. D'une certaine manière, on pourrait relire l'histoire de l'économie occidentale depuis la révolution industrielle comme la tentative herculéenne de substituer autant que possible de l'énergie naturelle à l'énergie humaine. Alors plus vous arrivez à substituer, par exemple, du pétrole, de l'électricité, du nucléaire à l'énergie humaine, plus vous augmentez la productivité du travail. La productivité agricole a été augmentée grâce au fait que vous aviez des engrais chimiques, ça c'est du pétrole, grâce au fait que vous aviez des tracteurs, ça c'est encore du pétrole, etc. Vous voyez ? Et donc plus vous adjoignez du pétrole ou de l'énergie en général à la force humaine, plus elle devient productive. Mais moins vous avez besoin d'êtres humains pour travailler. Le fait que le monde soit fini, ça va nous obliger à redécouvrir la logique exactement inverse, c'est-à-dire utiliser moins d'énergie pour plus d'hommes. Et nous avons une chance inouïe, c'est que la démographie nous est très favorable, puisque nous allons avoir une démographie florissante, au moins encore jusqu'en 2050-2060. Donc je crois que là, il y a un renversement de perspective majeur à avoir. Il y a des ingénieurs en France qui travaillent. Qu'est-ce que ça voudrait dire aujourd'hui qu'avoir une agriculture française décarbonée, ça supposerait 1 million de personnes qui travaillent dans les champs en France. Alors ce n'est pas demain matin qu'on va mettre 1 million de personnes à la campagne, mais vous imaginez quel type de révolution intellectuelle ça suppose.
Culturelle,
tout à fait, oui. Voilà.
On reprend, si vous n'êtes pas encore complètement épuisé, on va reprendre une petite série de questions. Alors, Emmanuel, tu as le micro, tu le prends, voilà, vas-y.
J'avais juste une question sur les mécanismes de régulation financière, puisque on sait qu'il y a une situation qui est disparate au sein de l'Europe et que les marchés actuellement ne croient pas à la zone euro telle qu'elle est. Mais derrière, on n'a pas l'impression que l'Europe essaye de lutter contre les marchés. Il y a juste eu un projet il y a quelque temps du Parlement européen qui disait oui, vous n'avez pas le droit aux banques, vous n'avez pas le droit de vendre à découvert, c'est-à-dire que les banques en fait ne prennent pas énormément de risques puisqu'elles jouent des CDS sans posséder l'objet lui-même, donc elles peuvent jouer à la baisse très fortement et ça n'a jamais été sanctionné à part en Allemagne. Donc est-ce que c'est une méthode qui permettrait de limiter les tensions sur les taux d'intérêt des dettes?
Merci. Juste à côté, oui, vous avez le micro, allez-y.
Est-ce qu'on se trouve en face d'une question de légitimité qui a été posée par M. Papandréou avec son idée de référendum? Et j'aurais envie de poser la question, puisque j'ai vu dans quelques articles l'idée de la constituante. Est-ce que ça serait le moment, dans cette crise, de poser la question, éventuellement rêvante dans un référendum européen, que l'Assemblée se dote d'une fonction de constituante? Je l'ai vu écrit 2-3 fois dans des articles d'il y a quelques jours et j'aimerais vous entendre là-dessus. Car dans cette crise, est-ce que ce n'est pas par la politique que nous allons sortir?
Merci beaucoup. Alors, Romain, tu redescends. Il y a énormément de questions et bien sûr, on ne va pas pouvoir y répondre. Au milieu, voilà, à ce niveau-là, voilà, c'est très bien, on fait passer. Merci.
Je rebondis en partie sur la question précédente au sens où on a le sentiment d'un fantastique pouvoir manipulateur des financiers. On a un peu le sentiment que ça s'est passé pour la Grèce comme le chat, la souris. Pourquoi ce pouvoir manipulateur? C'est que les politiques, depuis de nombreuses années, se sont laissés aller, ont donné tout pouvoir aux financiers progressivement, que ce soit à droite ou à gauche dans tous les pays d'Europe. Et ma question, comment le politique peut-il reprendre la donne en Europe et peut-être plus large qu'en Europe?
Merci. On va terminer par Romain devant par une question. Oui, monsieur. Voilà, je crois qu'on est vraiment au cœur du débat avec toutes ces questions.
Je retiens qu'il y a le feu dans la baraque. Jusqu'à présent, on a fait trop peu, trop lentement, et hors des normes de pensée de chacun des pays. Nous sommes un grand nombre de pays de l'Union monétaire, j'entends, davantage de l'Europe. Comment peut-on faire une gouvernance rapide et réagir rapidement dans un cadre où l'unanimité est nécessaire, elle est inscrite dans les traités, où la Slovénie, si elle est de mauvais poil, bloque tout le système? Comment fait-on pratiquement? Parce que c'est vrai qu'il y a le feu, mais encore faut-il avoir les moyens d'avoir l'extinction.
Voilà, mais écoutez, je crois qu'on est tout à fait... Oui, pour l'instant, on va s'arrêter sur les questions. La gouvernance politique, les problèmes de légitimité, le pouvoir financier, est-ce qu'il n'est pas trop important? Voilà, essayez de nous dire comment on peut véritablement avancer, quoi.
Écoutez, moi, j'ai relevé trois questions. D'abord, sur le pouvoir manipulateur des marchés. Je crois évidemment que les marchés se sont organisés d'une façon... Enfin, le système financier, plutôt, bancaire, s'est organisé pour gagner de l'argent et pour jouer de toutes les différences, etc. Ce sont des petits malins, ils ont des équations, ils ont tout un tas de systèmes qui leur permettent de jouer à fond de toutes les différences de valeur chaque fois qu'elles apparaissent. Je vous mets en garde, et là je suis peut-être pas sur la même longueur d'onde que Gaël Giraud, je vous mets en garde contre l'idée qu'il y a une sorte de projet manipulateur et machiavélique des marchés. En réalité, je considère que nous avons emprunté de façon abusive. Moi, je ne crois pas que ce soit les cadeaux. Quand nous avons un taux de 50% du PIB, des dépenses publiques qui représentent 50% du PIB, quand on a des prélèvements obligatoires qui sont à hauteur de 44%, je ne pense pas que l'organisation du système public soit une utilisation optimale de cet argent. Je pense que nous pourrions faire beaucoup mieux, beaucoup plus juste et beaucoup plus efficacement. Je pense qu'il faut vraiment regarder ce qui s'est fait depuis des années dans l'Europe du Nord pour améliorer nos performances. Tout cela fait que nous avons vécu à crédit. Et quand vous vivez à crédit, ben vous dépendez de ceux qui vous prêtent. C'est le syndrome de Madame Bovary. Elle se suicide à la fin. J'espère que nous n'en serons pas là. Mais c'est un problème absolument classique. Nous avons réagi depuis 40 ans en considérant que chaque fois que nous avions un retard de croissance, c'était un problème de cycle, une interprétation pseudo-keynésienne qui appelait qu'on mette de l'argent public, de la consommation, etc. En réalité, les problèmes que nous avions étaient largement des problèmes structurels. Nous avons, je ne dis pas qu'il faut méconnaître le cycle, je ne suis pas du tout insensible au keynésianisme, mais je suis insensible au pseudo-keynésianisme. Donc là, je pense qu'il y a un vrai problème qui est nous nous sommes gavés en Europe. Et les Grecs, n'en parlons pas. On a déversé en termes de fonds structurels des sommes considérables. Les comptes ont été falsifiés, systématiquement falsifiés, effectivement, avec une sorte de benign neglect de la part des Européens. Mais c'est quelque chose qui n'a pas été admissible. Alors, les banques se sont gavées là-dessus. Les marchés ont fait semblant, ont cru sincèrement que prêter à la Grèce était comme prêter à l'Allemagne, donc, alors que le traité disait le contraire, puisque le traité interdisait le bail-out. On aurait dû donc traiter les Grecs pour ce qu'ils étaient, c'est-à-dire un client assez incertain, et non pas comme une sorte de pédoncule de l'Allemagne. Bon, donc en tout cas, on a créé des situations, on sait qui sont des situations que nous avons à payer. Alors on les paye, on les paye pas, on a 36 solutions, mais ce qui s'est passé, c'est nous. Regardez la façon dont se trouvait l'Asie en 97, ils ont réagi, ils ont appliqué d'ailleurs le FMI qui a mauvaise presse, a donné des conseils qui n'étaient pas trop malheureux, et 10 ans plus tard, 13 ans plus tard, ils sont dans la situation où ils sont. C'est pour ça que je ne suis pas entièrement pessimiste. Je crois qu'on peut se redresser, qu'on ça demande de faire des efforts. Deuxièmement, la question, et je vais très vite, la question de la régulation
de la régulation économique, je crois que le problème, c'est un problème, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un problème de frontières. Vous ne pouvez pas faire quelque chose comme ce que les ventes à terme, les CDS, si vous le faites dans un espace restreint. Aujourd'hui, vous avez un monde totalement poreux, avec, je me rappelle la définition que donnait un homme politique il y a 30 ans de la Suisse. Il disait, qu'est-ce que vous voulez dans la Suisse? Dans un monde de gangsters, il faut bien qu'il y ait un receleur. Les receleurs, il y en a partout. Bon, nous sommes dans un monde de fourbes et de fourgues. Bon, c'est ainsi parce que c'est une toile complètement trouée que la gouvernance mondiale. Et on n'y arrive pas. Si on arriverait effectivement, si on avait véritablement des capacités d'action collective, ça serait tout à fait différent. Mais si ma grand-mère avait de la barbe, etc. Troisièmement, la constituante. Alors là, il faut se méfier. Moi, la constituante, je sais que, par exemple, Mélenchon avait dit ça. Mélenchon, c'était le nom au traité constitutionnel, au nom d'un hyper-fédéralisme théorique. Moi, je me méfie. Je me méfie parce que je suis très pour qu'on fasse une constituante ou pas, mais je me méfie de l'idée qu'on va organiser l'Europe comme si c'était un État national. Ce que nous devons essayer d'inventer, c'est une démocratie multinationale. C'est une démocratie qui s'applique à des collectivités humaines qui sont liées entre elles par des liens de solidarité et de dépendance mutuelle extrêmement fort, mais qui ne constitue pas un démos en tant que tel. Qu'est-ce que c'est qu'un démos? C'est un ensemble dans lequel vous pouvez donner le pouvoir pendant 5 ans à quelqu'un qui pense le contraire de ce que vous pensez sans faire une guerre civile. C'est ça le démos. C'est que bon, et donc c'est pour ça que j'ai vu Cohn-Bendit, mon ami Cohn-Bendit, que j'aime beaucoup et avec lequel j'ai échangé, mais je vois depuis que je suis plus au Parlement, je ne suis plus là pour le modérer, et c'est dommage. Cohn-Bendit a dit il faut faire élire le président de la Commission au suffrage universel. Qu'il s'en garde, c'est le syndrome Lincoln. Vous faites élire un président qui représentera la moitié de l'Europe, une Europe de droite contre une Europe de gauche, une Europe de gauche contre une Europe de droite, qui recoupera des entités géographiques particulières, vous avez la sécession au bout du compte. Ce que nous devons inventer, ce sont des mécanismes de démocratie-négociation et non pas des mécanismes de démocratie-confrontation. Et de ce point de vue-là, la méthode communautaire, là je réponds à la question qui était posée tout à l'heure, la méthode communautaire est formidable. L'une des grandes fautes de Mme Merkel, c'est d'avoir dit à Bruges, il y a un an, qu'il fallait renoncer à la méthode communautaire et préférer ce qu'elle appelle la méthode de l'Union, c'est-à-dire la méthode intergouvernementale, qui produit, comme vous le disiez, monsieur, trop peu, trop tard et trop mal. Bon, eh bien, il faut donc inventer, mener, avec quand même conçu tout un ensemble de mécanismes, qui combine l'efficacité, la majorité qualifiée, etc., avec des démarches d'inclusion, de partage, de mise en œuvre d'un bien commun conçu comme la mise en harmonie d'un certain nombre d'intérêts particuliers qui, pour être particuliers, ne sont pas nécessairement illégitimes pour autant. C'est ça qui... Alors, la constituante, je veux bien, mais à condition qu'on ne croit pas qu'on va faire de l'État, un État européen, comme on a fait l'État républicain en France ou l'État ou la monarchie constitutionnelle en France à partir du serment du jeu de paume.
Gaël. Sur la question de la régulation des marchés financiers, je pense qu'effectivement, c'est un enjeu majeur sur lequel on a très peu avancé depuis 2008. Alors, il y a eu des décisions fortes qui ont été prises par la Commission européenne sur ces affaires-là, mais qui ne sont pas entrées en vigueur. C'est-à-dire que le travail des banques aujourd'hui, c'est de montrer que c'est très difficile et qu'il faut attendre, de sorte que la majorité des directives qui ont été adoptées depuis 2008 n'entreront pas en application avant 2015, 2016, 2019, ce qui est évidemment beaucoup trop tard. À l'intérieur de toutes les mesures de réglementation des marchés financiers que nous pourrions décider de mettre en œuvre tout de suite, la question de l'interdiction des ventes à découvert à nu des CDS est un enjeu majeur, c'est clair aussi. La décision qui a été prise, c'est d'interdire les ventes à découvert à nu de CDS sur les titres bancaires, pour interdire les spéculateurs de parier à la baisse sur les titres des banques. Mais je peux toujours parier à la baisse aujourd'hui sur les titres de dette publique des États, Donc, la décision qui a été prise dit clairement au marché, vous pouvez jouer tant que vous voulez avec les dettes publiques des États, mais pas avec les titres des banques. Donc là, il y a clairement deux poids, deux mesures entre les banques et les États. Et je terminerai juste en disant que, en fait, cette extraordinaire croissance des marchés financiers et la puissance extraordinaire dont ils disposent aujourd'hui, puisque je crois que, de fait, ils sont en mesure aujourd'hui de mettre à genoux l'Europe, elle n'est pas, c'est pas, je veux dire, un produit du destin tragique face auquel nous n'aurions aucun pouvoir. C'est nous-mêmes qui l'avons mise en œuvre. La Commission européenne elle-même a voté la directive MIF, des marchés des instruments financiers, qui a été adoptée en 2004, mise en œuvre en 2007, et qui supprimait l'obligation faite aux transactions financières de passer par la médiation d'une bourse. C'est ça qui a donné l'élan initial à tout ce qu'on appelle aujourd'hui les dark pools et le shadow banking, c'est-à-dire toutes les places financières complètement opaques, gérées par les banques elles-mêmes, sur lesquelles la puissance publique n'a aucun droit de regard, et sur lesquelles et qu'il va falloir absolument, à mon sens, interdire le plus rapidement possible, sinon interdire, au moins réguler très très fortement. Mais ceci n'aurait pas été possible si nous-mêmes n'avions pas décidé la directive MIF. Donc nous sommes en partie responsables aussi, très largement, de ce développement incroyable, cancéreux à mon sens, des marchés financiers tels qu'on les connaît aujourd'hui.
Je voudrais dire un mot là-dessus, parce que j'ai participé directement à cette affaire à la Commission économique et monétaire du Parlement européen, et je me rappelle très très bien, nous étions très très conscients, tous, notamment les Français, mais pas seulement les Français, mais la gauche et tous les Français, on peut dire. Nous étions très conscients des dangers de cette affaire, et nous avions pour nous Adam Smith. Car que dit Adam Smith, c'est que le marché doit être transparent. Une bourse, c'était le lieu de confrontation d'une offre et d'une demande. Et ce que les anglo-saxons nous demandaient, c'était la catimini, c'est-à-dire la main, non seulement la main invisible, mais la main, on ne sait pas dans, où elle était passée, mais c'était vraiment une espèce de dérogation. Et là, je me rappelle vraiment physiquement la domination idéologique de la finance anglo-saxonne. Nous avions amené les uns et les autres, le Trésor nous soutenait pas mal avec beaucoup d'aide technique, de papier, etc. Et nous avions des experts, nous avions mis des experts dans cette commission économique et monétaire remarquables. Les experts français et allemands et autres, étaient remarquables. Mais il suffisait qu'arrive le moindre banquier de la City avec un costume trois pièces et une montre à chaîne dans son gilet, pour qu'on était traité comme si on était à l'âge de pierre, et que là, il y avait une espèce de modernité triomphante, ils ricanaient en disant, mais pauvres, pauvres Français, là, vraiment, vous êtes... c'est très, très frappant. Là, j'ai vraiment vécu ce que les marxistes appellent l'idéologie dominante.
Voilà, je laisse la parole à Pierre pour conclure nos débats.
Eh bien, on a un peu nagé dans la pénombre au début. Je pense que cette pénombre, c'était la prise en compte du réalisme qui est loin du triomphe européen des années 90, et je pense que c'était important de passer par là. Mais je pense qu'il y a aussi des petites lumières qui peuvent s'allumer. Donc il y a des évolutions, les Allemands évoluent, des responsables politiques prennent leurs responsabilités. Il y a peut-être une vérité qui vient de se dire là sur les acteurs qui doit être davantage révélée, et ça c'est important. Parce que ce qui me semble important derrière, c'est que l'esprit européen soit encore entendu. Et le risque de la pénombre dont nous avons beaucoup parlé, c'est qu'elle risque de rendre difficile cette vie européenne dans la majorité des Européens eux-mêmes. Donc cette soirée nous aura peut-être éclairés, et je pense que c'est important d'avoir ainsi ces éclairages pour que cet esprit européen reste un peu plus vivant. Donc je remercie en votre nom Jean-Louis Bourlange et Gaël Giraud pour ces éclairages nombreux.
Voilà, je vous rappelle que vous pourrez trouver sur le site centresef.com et celui d'études l'enregistrement de cette soirée, qu'un certain nombre de numéros de la revue études sont à votre dispositions sont en vente à la sortie, notamment le hors-série qui rassemble un certain nombre d'articles sur l'Europe, dont un article de Jean-François Bourlange. Et je serai heureux de vous retrouver pour la prochaine soirée d'éthique publique qui sera sans doute sur les politiques de santé au mois de décembre, le premier mardi. Bonne soirée à tous. Merci de votre fidélité.
Comme vous dites pas, Jean-Louis Bourlange.